Merci, Fresneville. C'est un peu une surprise pour moi. Je n'étais pas censé être ici aujourd'hui, mais ce soir, c'est le soir où nous avons la communion. Et j'ai pensé venir faire un tour ce matin. J'ai appelé Fresneville et il a dit, « Eh bien, alors, si tu viens, il a dit, pourquoi ne pas nous parler un peu ?» Et je me suis dit que, eh bien, si je venais et que c'était possible, je n'allais pas prêcher, mais simplement parler à l'Église pendant un petit moment de choses qui, vous savez, qui, à mon avis, affermiraient l'Église. Nous venons de rentrer de notre partie de chasse d'automne, les frères et moi. Et là, nous avons passé des moments glorieux. Nous sommes très reconnaissants. Nous avons tous été comblés. Et nous avons attrapé le gibier que nous chassions. Et notre pasteur et moi, nous savons que la viande de gibier, c'est très, très bon. Donc, nous avons attrapé de beaux cerfs. J'ai attrapé un ours et deux cerfs. Et nous sommes revenus. Et c'est censé être le moment où je dois prêcher sur les sept derniers sauts. Mais les travaux d'aménagement de l'église ne sont pas achevés. C'est qu'il y a eu quelque chose, un obstacle. En fait, je pense que la ville nous donne du fil à retordre, parce que nous n'avons pas suffisamment de places de stationnement par rapport au nombre de gens que l'Église compte accueillir. Nous voulons ériger une nouvelle Église ici, et nous avons déjà une bonne partie de l'argent prévu à cet effet, et afin que nous ayons une plus grande Église. Mais quand nous avons eu les réunions ici, eh bien, vous comprenez la situation, c'est vraiment pire. Les gens sont debout le long des murs, dehors, sous la pluie, et c'est tout simplement terrible. Et je reçois des critiques, même de mes amis. Ils disent, « Frère Branham, il me semble que... » Un médecin de mes amis a dit, « Il me semble que vous pourriez trouver un autre endroit. » Il a dit, « Ça me fait de la peine, là, les gens passent. » Ma voisine, qui est infirmière, m'a dit, « Eh bien, je suis passée un matin à 5 heures. Il était prévu que vous seriez là. » Elle a dit, « Les gens se rassemblaient déjà là-bas, autour de l'église, à 5 heures du matin. Il était prévu que vous seriez là à 9h30. » Donc, voyez, ça rend les choses difficiles. Nous voulons avoir une église spacieuse, avec suffisamment de places assises pour tout le monde. Et nous pensons que nous vivons dans les derniers jours. C'est ce que nous croyons. Que là où nous devrions enseigner à l'Église ces choses, ce qui est en train de prendre forme, ces choses qui ont été prophétisées, certaines d'entre elles, il y a des milliers d'années. Et depuis au moins 25 à 30 ans, dans cette Église, il y a des choses qui ont été prophétisées et qui devaient s'accomplir. Maintenant, elles sont en train de s'accomplir. Alors, nous devrions rappeler ces choses, mais nous n'avons pas assez de place. Alors, ce matin, hier, j'ai fait des visites et tout, et je dois encore en faire quelques-unes cet après-midi, et ainsi de suite. Puis, il y a des gens qui désiraient être vus en entretien, un jeune homme charmant qui a fait une dépression nerveuse, un frère dans le ministère qui œuvre sur le champ de mission, plusieurs autres cas, et un frère de Norvège. Et nous avons eu de petits entretiens là, dans la pièce du fond. Et j'ai dit, eh bien maintenant, nous allons sortir. Et Fresneville a dit, eh bien, nous irons dire quelques mots pour affermir un peu l'Église. La preuve, l'une des premières choses que je tiens à dire, j'ai noté sur papier, ici, certaines choses que je tenais à dire, dès que je serai de retour à l'Église. Une des choses que j'avais écrites ici, c'était au sujet du décès de notre bienveillant frère Taylor, pendant notre absence. Frère Taylor a fréquenté cette église pendant de très nombreuses années. Nous le connaissions tous, j'en suis certain. Mais s'il se trouve qu'il y a des visiteurs ici, il s'agit du précieux homme âgé qui trouvait toujours un siège pour que vous puissiez vous asseoir. Frère Taylor. La dernière fois que je l'ai vu, jusqu'à ce que je le revoie en tant que jeune homme, il était debout là, à la porte, il y a 3 ou 4 dimanches. Il a dit, « Je voudrais avoir quelques brochures, frère Branham. Je voudrais distribuer ces brochures. » Alors, à ce que j'ai compris, il était diabétique et il est entré dans le coma et il ne savait pas qu'il avait le diabète. Il est mort. Il n'est pas mort. Il est simplement allé auprès du Seigneur Jésus. Et il était un fidèle et merveilleux frère, toujours soucieux des autres. Et son plaisir était de pouvoir trouver une place pour faire asseoir les gens quand ils venaient à l'église. Et vous savez, peut-être que quand nous franchirons la barre, ce serait agréable, n'est-ce pas, de voir frère Taylor là-bas, occupé à nous trouver une place pour que nous nous asseyions là, de l'autre côté. Je pense qu'en mémoire de frère Taylor, je n'étais pas présent lors de ses funérailles pour parler aux côtés de frère Neville, mais j'aimerais adresser un mot de reconnaissance à sa veuve. Sœur Taylor est ici quelque part ce matin, je suppose. Que Dieu bénisse cette sœur au cœur si loyal. Frère Taylor m'a dit un jour, « Venez me voir là-bas. J'ai creusé un petit lac là-bas et j'y ai mis quelques poissons pour que vous puissiez venir pêcher. » Il se souciait toujours des autres. Et il y a quelqu'un qui s'est soucié de lui, Christ, qui lui a donné le salut. Je pense qu'en mémoire de notre frère, nous, notre Église rassemblée comme un corps ce matin, levons-nous tous ensemble et courbons la tête devant Dieu. Notre Père Céleste, nous, en tant qu'êtres humains ce matin, ceux qui fréquentent ce lieu d'adoration, ta grande main est passée parmi nous et a pris l'un de nos précieux frères que nous aimons. Et nous savons que tu l'aimais aussi, et tu avais une raison pour tout cela, Seigneur. Sinon, ce ne serait pas arrivé de cette manière. Car nous savons que notre Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et il aimait Dieu. Nous regardons dans ce monde et nous constatons que la nature, de toutes sortes de manières, nous déclare que la tombe ne peut pas retenir notre frère, car sur la terre, il a accompli le but pour lequel tu l'avais envoyé ici. C'était un frère loyal et bon. Nous constatons cela dans le cycle de vie des végétaux et dans le cycle de vie du soleil qui se lève le matin pour nous donner la lumière. Au milieu du jour, ce soleil atteint l'âge mûr, et de nouveau le soir, il meurt et se relève le lendemain matin, frais et renouvelé, parce qu'il a accompli le but de Dieu. Nous voyons les fleurs s'épanouir et embellir la terre, décorer les salons funéraires, les lieux de mariage, et accomplir leur but. La fleur ouvre son cœur et donne gratuitement du miel aux abeilles, du parfum aux passants et de la beauté à celui qui en cherche. Tout ce qu'elle possède, elle le met au service de Dieu, puis elle courbe sa petite tête. Mais quand vient le printemps, elle repousse, parce qu'elle a accompli le but de Dieu. Alors, eu égard à la nature tout entière, à la Bible, à la promesse et au Saint-Esprit, nous pouvons nous réjouir grandement dans notre cœur, Seigneur, de savoir que notre frère Taylor aussi a accompli le but de Dieu, et dire qu'il ne ressusciterait pas reviendrait à renier notre Bible, notre Dieu, et tout ce que Dieu nous a donné en référence pour que nous sachions qu'il y a une résurrection. Alors, nous attendons impatiemment le moment où nous le reverrons, alors qu'il sera jeune et en bonne santé, et qu'il ne sera plus jamais malade et ne vieillira plus jamais. Bénis sa précieuse épouse, sa loyale compagne. Ils nous manqueront longtemps, Seigneur. On les voyait aller ensemble à l'étang et s'installer là, sur de petits bancs, à pêcher et à causer. Et, oh, ils étaient de vrais amoureux. Et maintenant, nous savons que le grand jour vient, quand les héros de la foi défileront sous la glorieuse arche de triomphe et que les anges de rempliront les airs de leurs hymnes. Nous les reverrons là-bas. Jusqu'à ce moment-là, Seigneur, donne-nous du courage, bénis-nous et aide-nous. Frère Taylor nous manquera pendant longtemps, à nous et à tous ceux qui fréquentent cette église. Il se tenait là, à la porte, et il trouvait une place à celui qui venait écouter la parole de Dieu, afin que ce dernier puisse s'asseoir et être bien. L'autre jour, quand il est passé de l'autre côté, Seigneur, j'ai prié que le grand archange de Dieu se tienne là, à la porte, pour lui trouver aussi une place, Seigneur, afin qu'il puisse s'asseoir, car il est écrit dans la Bible que les miséricordieux obtiendront miséricorde. Jusqu'à ce que nous le revoyons, Seigneur, puissions-nous conserver de bons souvenirs dans nos cœurs, jusqu'au jour où nous nous rencontrerons de nouveau dans l'autre pays. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous... Nous te le demandons. Amen. Il nous manquera pendant longtemps, ainsi qu'à nos visiteurs et à tous ceux qui fréquentent notre église ou ce bâtiment-ci pour adorer. Que son âme repose en paix devant Dieu jusqu'à ce jour-là. Un jour, nous partirons aussi, nous partirons un à un, comme ça, jusqu'à ce que ce soit notre tour de quitter la scène. Maintenant donc, pendant que nous avons le temps et que nous pouvons le faire, préparons-nous pour ce moment qui viendra, car nous ne savons pas quand il viendra. Nous ne savons pas qui sera le prochain. Vivons chaque jour de telle manière que, s'il arrivait que ce soit notre tour d'être emporté, nous soyons prêts. Maintenant, j'aimerais faire des annonces. Donc, bientôt, il est possible que, peut-être, je n'ai pas discuté avec les administrateurs depuis mon retour, au sujet de l'état d'avancement des travaux de construction de l'église ici, ou de ce que nous devons encore faire pour préparer notre église, afin de tenir nos réunions. Je pourrais ensuite aller de l'avant, excusez-moi, avec les sept sceaux, les sept coupes et bien d'autres choses que nous devrions aborder sans tarder. Bon, dimanche matin prochain, là, je suis censé être à Elizabethtown, dans le Kentucky, chez frère L.G. Hoover, pour une dédicace. C'est pour consacrer un nouveau tabernacle. En fait, c'est un tabernacle qu'ils ont acheté à Elizabethtown, dans le Kentucky, en suivant la route 62 jusqu'à Elizabethtown, ou, je veux dire, la route 31, ou en passant par l'autoroute à péage. Tout juste à l'embranchement, cela vous mène à Elizabethtown. C'est à environ une heure d'ici. C'est un trajet d'environ 55 ou 60 kilomètres jusque là-bas. Il me semble que c'est environ 60 kilomètres en suivant sur la route 31 et environ 55 kilomètres ou quelque chose comme ça si l'on emprunte l'autre chemin qui passe par l'autoroute à péage. Ça se trouve sur la rue Mulberry. La dédicace, frère Hoover fera l'école du dimanche à 10 heures comme d'habitude. Et je dois prêcher le service de dédicace de 11h à midi, dimanche prochain, le 11 novembre. Là, sur le tableau d'affichage, vous trouverez des informations à ce sujet. Et ce sera à... Là, vous pourrez voir l'itinéraire. C'est sur la rue Mulberry, où les indications ont été données sur le... C'est sur le tableau d'affichage, là, dans le vestibule de l'église. Puis, le 22 novembre, je suis censé être à Shreveport, en Louisiane, les 22, 23, 24, 25 et 26. 5 jours, je pense, à Shreveport, en Louisiane, au Life Tabernacle. C'est chez frère Moore. Ils célèbrent leur jubilé d'or. Le 22 de ce mois, ça fera 50 ans que la bénédiction de la Pentecôte est descendue à Shreveport, en Louisiane. Ça fait 50 ans que le premier message pentecôtiste a été prêché. Et c'est là qu'est descendu, que le Saint-Esprit est descendu en Louisiane. Et ils commémorent cela comme c'est le jubilé d'or. Alors, au cours de ce jubilé, je dois prêcher pendant 5 soirées chez frère Moore au Life Tabernacle à Shreveport. Si vous avez des amis là-bas, si vous voulez bien leur écrire ou quelque chose comme ça, eh bien, nous serons heureux qu'ils se joignent à nous. Parlez-leur de ces réunions qui auront lieu prochainement. Et au Life Tabernacle, si quelqu'un y a déjà été, frère Moore est un homme merveilleux. Là-bas, il y a un merveilleux groupe de gens, ces braves gens du Sud. C'est pratiquement impossible d'en trouver de meilleurs qu'eux. Et donc, le Life Tabernacle, tout le monde à Shreveport peut vous indiquer où ça se trouve. Shreveport a environ 200 000 habitants. Et c'est une belle ville où on trouve beaucoup d'options d'hébergement. Alors, et c'est un grand tabernacle, un très grand tabernacle. Il a des étages, des balcons, une salle principale et une autre salle en plus. Il y a tout simplement beaucoup de place. C'est juste en face de la salle municipale qui peut accueillir 5000 personnes. Se rendre à la salle municipale, c'est exactement comme traverser la rue ici. Le révérend Jack T. Moore, ou bien le Life Tabernacle à Shreveport, en Louisiane. Ça commence le 22. Ça sera du jeudi au dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours, et non 5. Excusez-moi. Ce sera les 22, 23, 24 et 25. Je pense que c'est ça le programme, en novembre. Et nous verrons alors où on en est par rapport à notre Église ici, l'état d'avancement du projet de construction de l'Église. Les entrepreneurs nous disent qu'ils peuvent mobiliser assez d'ouvriers pour qu'en une dizaine de jours, le projet soit avancé au point que nous puissions pratiquement entrer dans le bâtiment. Voyez, ça sera vraiment rapide. Tout ce qu'ils attendent, c'est l'approbation de la ville. Vous savez, nous devons avoir tant de places de stationnement et tant de ceci. Et, oh là là, il faut passer par tout un tas de tracasseries administratives avant de commencer à construire quoi que ce soit. Mais j'aimerais revenir à l'église avant de repartir sur le champ de mission. Eh bien, j'ai reçu des invitations pour aller au Tanganyika, en Ouganda, et un peu partout là-bas. Joseph a tout mis sur pied pour que cette série de réunions commence en février. Hier, quand je suis arrivé, il y avait quelques frères et Sir Toms et ceux qui sont venus de l'étranger. Il y avait, j'ai trouvé une note sur ma porte ou une invitation d'une association basée en Afrique du Sud. Alors, je vais leur écrire pour voir ce qu'on peut faire. Peut-être que comme je serai si loin, je pourrais faire un saut en Afrique du Sud, probablement vers fin février ou début mars, vers cette période-là. Et nous espérons que l'Église sera prête pour que je puisse aborder les arts de l'Église avant que l'hiver s'installe, si possible. Sinon, ce sera quand je reviendrai de là-bas, si le Seigneur Jésus tarde. J'écoutais hier, pendant que je... C'était plutôt avant-hier, je crois. J'écoutais un enregistrement. Je pense l'avoir entendu jouer ici ce matin. C'était un jeune frère du Sud qui avait... Sa mère était venue à la réunion. Elle avait une tumeur maligne à un sein. Et elle était recouverte de l'ombre de la mort. Et le Saint-Esprit, dans l'une des réunions qui se sont tenues récemment à Southern Pines, je crois, ou ailleurs, lui a parlé de sa tumeur maligne. Elle lui a dit qui elle était et d'où elle venait. Et il lui a dit qu'elle avait un garçon qui était en rétrograde et qu'il allait avoir un accident et qu'il serait accusé d'homicide involontaire et un tas de choses semblables. Et ce garçon, tout cela est arrivé exactement tel quel. Et son cancer malin, ou plutôt sa tumeur maligne, l'a quitté. En fait, une tumeur maligne est un cancer, vous savez. Ainsi donc, cela l'a quitté. Et le garçon a comparu pour homicide involontaire et tout, exactement comme le Saint-Esprit l'avait dit. Et il a été de nouveau conduit à Christ. Et il a enregistré tout cela sur une bande et je l'ai entendu jouer. Avez-vous aimé ce bon vieil accent du Sud? Il disait, ici en Caroline du Nord, disait-il. Oh, que je les aime, ces braves gens du Sud. Et il avait, et le Seigneur a continué à le bénir. Il a dit, je sais que vous dites que vous ne prêchez pas de doctrine, frère Branham, excepté aux gens de votre assemblée. Il a dit, nous faisons partie de votre assemblée. Alors, c'était bien gentil de sa part de dire ça. Et maintenant, il y a une photo, je crois, qui est peut-être sur le tableau d'affichage ce matin. Si elle n'y est pas, Billy l'y affichera. On m'a souvent dit, quand j'ai commencé à en parler au tout début, les gens disaient, « Vous avez juste imaginé ça, frère Branham, que vous voyez cette lumière. » Il y a probablement très peu de... Il se peut qu'il y en ait encore quelques-uns ici, des vieux de la vieille, qui s'en souviennent. C'était avant que des photos en aient été prises. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient que je disais ça, il y a très longtemps? Regardez, seulement 4 ou 5 mains. Sœur Spencer, qui est ici, frère et sœur Slaughter, et le frère qui est ici, et le frère qui est là-bas. Il ne reste plus que 5 ou 6 des vieux de la vieille. Eh bien, maintenant, au bout de quelques temps, l'œil mécanique de l'appareil photo a capté cette image. Alors, on l'a envoyé à Washington, D.C. Et les experts, après l'avoir examiné, ont déclaré « aucune double exposition ou quoi que ce soit ». Ils ont déclaré « la lumière a frappé l'objectif ». C'est George G. Lacey, sa signature est apposée là, voyez. Eh bien, alors, bien des fois, vous m'entendez dire, je regarde et je dis « il y a une ombre noire qui recouvre cette personne-ci. Elle est recouverte de l'ombre de la mort ». Combien m'ont entendu dire cela? Maintes fois, voyez, maintes fois. Eh bien, justement, l'appareil photo a capté cela. Et donc, nous avons cela ici. Une dame s'était présentée à une sœur Elle lui avait parlé de sa situation lors de la série de réunions en Caroline, où nous avons eu cette merveilleuse série de réunions à Southern Pines. Et là, cette dame se mourait du cancer aux deux seins. Les médecins l'avaient condamnée. La dame s'est penchée et a pris la photo de cette femme au moment où je lui disais qui elle était et d'où elle venait. Et je lui ai dit, vous êtes recouverte d'une ombre noire. Vous êtes recouverte de l'ombre de la mort. Et la dame a pris cela en photo. Et voilà, l'œil mécanique de l'appareil photo a capté l'ombre de la mort. Si jamais vous avez vu le film « Les Dix Commandements » et que vous avez vu l'ange de la mort comme il avançait, cette ombre sombre et lugubre se trouve là, sur cette photo. Et je pense qu'en ce moment, c'est affiché au tableau d'affichage. Sinon, Billy Monton, eh bien, qu'il se charge d'afficher cela au tableau d'affichage. Et il y a là une flèche qui indique la personne. Et cette personne, cette ombre, a quitté cette femme et elle a été miraculeusement guérie. Mais il y a comme un capuchon, une fumée noire qui s'est rassemblée sous forme de capuchon au-dessus de la dame. C'est suspendu, comme ça, au-dessus de ce cancer. Ça vient de là. Bien entendu, c'est cette ombre qui indique la mort se déverse en elle par ce cancer. Eh bien, peu importe combien vous essayez de dire la vérité aux gens, il y aura quelqu'un qui soupçonnera que ce n'est pas la vérité. Et si vous dites toujours la vérité, alors vous savez que vous avez raison. J'ai un ami qui est un propriétaire de ranch dans l'Ouest, et le service de protection de l'environnement avait dépensé environ 4 000 $ pour acheter une motoneige en vue de compter le troupeau de wapiti qui était resté là-bas dans la vallée de la rivière Troublesome. Monsieur Jeverez, qui est venu dans cette église, je l'ai conduit à Christ alors qu'il était un parfait incrédule. Vous m'avez entendu raconter la fois où nous faisions du cheval ensemble. Et lui, il ne croyait à rien d'autre qu'à la théorie de Darwin. Cet enfant né d'une vierge, c'était une absurdité. L'autre soir, nous avons campé à l'endroit même où il avait accepté Christ. Et donc, voici ce que cet homme leur a dit. Il a dit, « Eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter cette automobile, cette motoneige. » Il a dit, « Je vais vous dire exactement combien de wapiti se trouvent là-bas. » Il a dit, « Il y en a 19. » Il a dit, « Il y en avait 20. » Il y en avait 21. Et j'en ai tué 2. Et là, il parlait au garde-chasse. « On est autorisé à n'en tuer qu'un. » Alors, il a dit, « Il y en avait 21 et j'en ai tué 2. Il en reste 19. » Et il a dit, « Oui, Jeff, je sais que tu en as tué 2. » Il a dit, « C'est vrai. » Eh bien, ils ont pris la motoneige et ils sont allés. Et là, ils ont trouvé 19 wapiti. Il a dit, « Billy, on n'a qu'à dire la vérité à un homme. Il ne la croira pas. » Alors, c'est à peu près la même chose. On a beau dire la vérité aux gens, ils vont quand même. Il y a tellement de malentendus et de mensonges sur différents sujets que les gens ne croient plus que vous dites la vérité quand vous leur dites la vérité, voyez-vous? Mais nous sommes si reconnaissants d'avoir un Père Céleste qui atteste cette vérité par une confirmation. C'est vrai. Alors, si aujourd'hui était mon dernier jour sur la Terre, même la recherche scientifique et les preuves scientifiques auront démontré que j'ai dit la vérité au sujet de ces choses. C'est vrai, c'est la vérité. Donc, ce sera probablement affiché au tableau d'affichage. Billy, es-tu là dans la pièce? As-tu cette photo sous la main? Si oui, eh bien, apporte-la ici. Tu pourrais la mettre ici. Probablement qu'ils pourront la voir. Eh bien, je ne sais pas. Il y aura de l'éclairage sur le tableau. Alors, voici la photo, juste ici. Je pense que vous ne pouvez pas la voir, mais juste ici, on peut voir cette ombre de la mort en forme de capuchon au-dessus de la tête de cette femme. Et voici le commentaire qui l'accompagne, ici, là où cette dame avait pris cette photo, pour voir si ça se verrait vraiment. Et voilà, c'est là-dessus. C'est l'ombre de la mort sous la forme d'un capuchon. Tu vois cette femme, celle qui est juste là? Je pense que tu as vu cela à Fresneville, n'est-ce pas? Oui. Alors, Billy va probablement afficher cela au tableau d'affichage. S'il te plaît, Billy, viens prendre cela et va l'afficher là-devant, au tableau, pour que tout le monde puisse voir cela en sortant. Lui ou Doc, l'un des deux. Bon. Je pensais que ce serait peut-être assez clair pour que vous puissiez la voir, mais c'est trop sombre pour ce genre de photo. Mais il va afficher cela là-bas pour que vous puissiez la voir en sortant. Donc, rappelez-vous toutes les annonces. Et maintenant, ce matin, je me suis dit que nous devrions peut-être parler un peu de quelque chose qui encouragerait l'Église, quelque chose qui vous donnerait plus de... Qu'est-ce que tu dis? Oui, Doc, s'il te plaît, ce serait bien. Je veux me servir de ceci. On n'avait pas la lampe la semaine dernière. Alors nous avons pensé que cela améliorerait peut-être l'éclairage aujourd'hui. Je voulais parler de ceci, parce que c'est en rapport avec un songe qu'une sœur a eu. Je me demande si Sœur Shepherd est dans l'église ce matin. Je l'ai rencontrée l'autre soir, et c'était la première fois que je voyais cette femme, en fait. Je ne savais même pas qui elle était. Est-elle ici? Je pense que non. Oui. Est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que ce serait contrariant si je parlais de ce songe, Sœur Shepherd? Ça ne vous dérangerait pas, n'est-ce pas? Très bien. C'est très bien. Maintenant, avant d'aborder cela, courbons de nouveau la tête. Bienveillant Père Céleste, nous te donnons la louange pour toute ta bonté et ta miséricorde. Et maintenant, tranquillise-nous, Seigneur, afin que nous puissions étudier la parole du Dieu vivant, alors qu'elle vient à nous par des visions, qu'elle est confirmée par le Saint-Esprit et qu'elle est soutenue par la Bible. Nous te prions donc de nous en donner la compréhension, afin que nous sachions ce qu'il faut faire en ces derniers jours, alors que nous voyons les puissances du mal s'installer autour de nous maintenant. La bataille, la dernière bataille, est sur le point d'être livrée. Aide-nous, Seigneur, comme de vrais guerriers, forts. Fais que nous brandissions continuellement le bouclier de la foi avec la parole de Dieu, l'épée, et que nous allions de l'avant. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, avec cette pensée d'aller de l'avant, d'une bataille, comme quand on se met en ordre de bataille, prêt à entrer en action, une vraie bataille, pour combattre le combat de la foi. Sœur Shepherd, ici, et frère Shepherd sont de nos très bons amis, et ils fréquentent ce tabernacle. Et ce sont de précieux enfants de Dieu. Et Sœur Shepherd, que j'ai ramassé mon courrier, ce auquel Billy peut répondre, c'est quand quelqu'un dit, « Envoyez-moi tel nombre de tissus de prière. » Je prie sur ces tissus, et il renvoie les réponses à ces personnes. Mais s'il s'agit d'une lettre personnelle, je dois y répondre moi-même, voyez-vous. Alors, j'ai ramassé mon courrier personnel, et je l'ai ramené à la maison. Je me suis mis à le lire, et il y était mentionné « de la part de Sœur Shepherd ». Et il s'agissait là d'un songe qu'elle avait eu il y a quelques mois. Et elle ne l'avait jamais vraiment compris jusqu'à il y a deux ou trois dimanches que j'ai enseigné sur ces sept tâches de l'Église et les sept fruits dans 2 Pierre, où il est dit dans 2 Pierre 1 qu'il faut joindre à notre foi. Voyez, premièrement, le fondement, c'est la foi. Deuxièmement, joignez à votre foi la vertu. À votre vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Et ensuite, l'amour qui est la pierre de fait. C'est sept choses, sept âges de l'Église, voyez, et sept étoiles des âges de l'Église. Et tout cela est cimenté par le Saint-Esprit. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Christ bâtit son Église en sept âges de l'Église. Son épouse, une personne, une femme, l'Église. Sept âges de l'Église constituent et forment l'épouse. Certains sont pris de cet âge-ci, d'autres de cet âge-là, d'autres de cet âge-là. Et l'ensemble forme un genre de pyramide. Comme Enoch, qui, croyons-nous, a construit les pyramides, et la pierre de fait n'a jamais été placée à leur sommet, parce que cette pierre principale avait été rejetée. Et nous avons présenté cela, non pas comme une doctrine, mais simplement pour comprendre, seulement pour l'Église ici, que c'est Dieu se rend parfait en trois. Il se rend parfait en Père, Fils, Saint-Esprit. trois fonctions d'un seul Dieu. Il se rend parfait par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les œuvres parfaites de la grâce. Il se rend parfait en trois venues. La première fois, pour racheter son épouse. La deuxième fois, pour prendre son épouse. La troisième fois, dans le millénium, avec son épouse. Et tout est rendu parfait en trois. Sept, c'est le nombre de l'adoration de Dieu. Dieu est adoré en sept. Il est rendu complet, donc parfait et complet. La chose étrange, et ça, je ne le dis pas pour l'injecter là-dedans, mais seulement pour vous le montrer, c'était que le dernier cerf que j'ai eu avait cinq pointes d'un côté et trois de l'autre. Voyez-vous, la grâce est la perfection. Maintenant, remarquez ceci. Christ, Dieu, a écrit trois Bibles. La première Bible était dans le ciel. C'est le Zodiac. Bon, si vous ne connaissez pas le livre de Job, oubliez ça. Car en effet, c'est Job qui a expliqué cela, quand il a levé les yeux et a nommé ces choses qui étaient dans le ciel. Et remarquez, dans le Zodiac, cela commence par quoi? La première chose dans le Zodiac, c'est la Vierge. La dernière chose dans le Zodiac, c'est le lion. La première venue de Christ, c'était par la Vierge. Sa seconde venue, c'est le lion. Le lion de la tribu de Juda. Et Enoch avait achevé, à son époque, ou à cette époque-là, la pyramide. Et ça, évidemment, nous n'avons pas le temps d'en donner le contexte pour montrer comment cette pyramide a été construite, avec des chambres et tout. Cela dépeint clairement ce temps de la fin. Ils sont maintenant au niveau de la chambre du roi, selon leurs mesures. Mais la pierre principale n'a jamais été posée au sommet de la pyramide. Les pierres ont été parfaitement assemblées du point de vue de l'architecture ou de la maçonnerie, de sorte que même la fine lame d'un rasoir, ils ne savent pas comment cela a été construit, ils ne le comprennent pas. On ne pourrait même pas glisser une lame de rasoir là où il devrait y avoir du mortier. Il n'y a pas de mortier là-dedans. C'est tout simplement assemblé avec perfection. Alors, c'est ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Il n'y a pas de mortier entre eux. Il n'y a rien entre eux. C'est tout simplement Dieu et la personne. Dieu, Christ et la personne. Mais alors, cette pierre principale, ils ne l'ont jamais trouvée. Vous connaissez la pierre de scone qu'on utilise en Angleterre lors de l'ordination des rois ou pour les couronner et tout. Mais la pierre principale, si vous remarquez, sur le billet $1 américain, vous verrez ici, sur le billet $1 américain, sur l'un des côtés à gauche, il y a le sceau de l'Amérique, un aigle qui tient des lances dans sa patte. Sur le second côté, ça s'appelle le sceau des États-Unis. Mais de l'autre côté, il y a la pyramide surmontée d'un grand œil. Et en dessous, c'est marqué le grand sceau. Pourquoi est-ce que ce serait le grand sceau dans cette nation, carrément au-dessus du sceau de notre nation? Voyez, peu importe ce que vous ferez, Dieu fera que cela parle quand même. Voyez, il fait que le pécheur en parle, il fait que la nation en parle, tout doit parler de lui, peu importe si vous voulez y croire ou non, c'est en plein là. Maintenant, remarquez, il y a un œil là. L'œil de Dieu, c'est que le fait n'a pas été posé, le sceau principal, parce qu'il a été rejeté. C'était le Fils de Dieu, la pierre angulaire de l'édifice, le sceau principal de la pyramide et de tout cela. Bon, je n'aime pas. Parfois, on enregistre ces prédications et elles se retrouvent parmi les frères dans des églises, dans d'autres églises. Et quand cela se produit, les frères ont parfois la fausse impression que je parle contre des frères. Mais ce n'est pas ça. Si seulement vous pouviez écouter et comprendre, voyez, je ne parle contre aucun frère. En effet, il n'est pas convenable pour des frères de parler les uns contre les autres. Nous devons parler les uns en faveur des autres, et non les uns contre les autres. Mais quand je parle parfois de certaines organisations, comme les presbytériens, les méthodistes, et ainsi de suite, les gens disent, « Voyez, il est contre cela. Je ne suis pas contre les frères qui y sont, ou contre les sœurs qui y sont. Ce que je dénonce, c'est le système qui désunit les frères. Les enfants de Dieu sont une seule famille, et non des groupes distincts. Et certains d'entre eux disent, je ne veux rien avoir à faire avec cela, parce que c'est presbytérien, et moi je suis méthodiste. Voyez, eh bien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, voyez. Il s'agit du système de cette organisation qui brise la communion entre les frères, voyez. Or là, comme je l'ai déjà dit, si vous descendiez la rivière dans un vieux rafiot et que vous essayez de braver les chutes, alors que je sais que cela ne marchera pas, eh bien, alors, je crierai, pas pour vous réprimander, c'est que j'essaye de vous faire sortir de ce bateau. Voyez, parce que ce bateau-là va se briser et vous serez abandonné à vous-même dans l'eau. Alors, ce n'est pas contre le frère qui est dans le bateau que je crie, mais je crie au frère pour lui montrer ce qui est sur le point d'arriver. Eh bien, tous ces systèmes que les hommes ont mis sur pied dans leur grande réalisation devront s'écrouler. C'est tout. Nous devons parvenir à l'unité, à la communion entre les frères. Cela a toujours été mon but dans la vie, d'essayer d'unir, non pas de briser une organisation, mais plutôt d'amener les gens à abandonner leurs opinions et à être des frères pour tous les chrétiens nés de nouveau. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut, c'est ça ma position. Eh bien, voilà, si les frères veulent bien remarquer cela, beaucoup de nos frères, même au sein des églises du plein évangile, ne croient pas que les baptistes, les méthodistes, les luthériens et tous les autres ont une chance. Eh bien, ils ont peut-être raison, mais je ne partage pas ce point de vue. Je crois que cet âge, l'âge de Luther, cet âge ici a été appelé, je crois, l'âge de Sardes, et ensuite l'âge de Philadelphie, celui des méthodistes, et puis les pentecôtistes, l'âge de Laodicée. Je crois que ce sont des âges, et Dieu, dans chacun de ces âges, a pris un peuple élu. Et là, comme Hébreux 11 le dit, eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. Voyez, mais maintenant, l'Église est partie d'ici, et elle est devenue de plus en plus minoritaire, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge pentecôtiste. Eh bien, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de ce que la sœur a vu dans son songe. Et son songe se rapporte certainement à ce que j'enseigne. Remarquez, alors ici, bon, toutes ces choses que vous dit 1 Pierre au verset 6 et 7 de « Par votre foi », c'est la première chose. Eh bien, je dis que les gens prétendent avoir ces vertus sans même être nés de nouveau. Et je crois avoir fait une remarque assez tranchante que j'ai dit, c'est comme un merle qui essaye de s'attiffer de plumes de paon et de se faire passer pour un paon. Il ne peut pas réussir. Il doit y avoir un plumage naturel qui pousse de lui. C'est de son intérieur que doit sortir ce plumage. Et de tout temps, j'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs au sujet des cheveux coupés, du maquillage sur le visage et toutes ces choses. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre elles. Je ne dis pas que cette femme n'est pas une bonne femme, qu'elle est une fille de trottoir ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça mon attitude. Mais voici ce qu'il en est. Quand elle est si artificielle à l'extérieur, cela montre qu'il y a beaucoup de choses artificielles à l'intérieur. Voyez, là où ça devrait être rempli de Christ. En effet, l'extérieur exprime toujours ce qui est à l'intérieur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez-vous? Et c'est Christ qui devrait être là, à l'intérieur. Elle devrait se soucier de Dieu, se soucier d'autre chose, au lieu de se soucier de toute cette pompe artificielle. Vous savez, ces paupières vertes, cette apparence inhumaine, et tout ce genre de choses. Je n'approuve pas du tout cela, et je ne crois pas non plus que la Bible approuve cela. Alors j'aime que nous soyons nous-mêmes. Remarquez, eh bien, si elle n'a pas d'ongles, et qu'elle veut en avoir, si elle n'a pas de dents, et qu'il lui en faut, si vous n'avez pas de bras, et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas de cheveux, et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas toutes ces choses, ça, c'est une autre affaire. Mais quand vous arrachez vos bonnes dents naturelles, parce qu'elles ne sont pas aussi brillantes qu'elles devraient l'être, alors vous avez mal agi. Si vous avez des cheveux roux, et vous en voulez des noirs, et qu'à cause de ça, vous allez les teindre en noir, vous avez mal agi, oui. C'est ce que moi je pense. Mais le plus important, il n'y a pas d'écriture pour ça. Par contre, pour ce qui est de couper vos cheveux, il y a des écritures. Oui, il y en a plein à ce sujet. Alors, nous voulons être sûrs que ça, c'est bien clair. Voilà, alors notre sœur, dans son songe, elle a rêvé qu'elle... Eh bien, tout d'abord, elle était troublée. À quoi ça sert d'aller de l'avant et d'essayer de se battre dans la vie si Dieu nous exige d'avoir le Saint-Esprit et que nous ne l'avons pas? Eh bien, je ne pense pas. Ils enregistrent peut-être ceci, mais s'ils ne le font pas, s'ils le font, c'est uniquement pour l'Église. Voyez, maintenant, et si jamais un frère recevait cette bande, si vous entendez ma voix, frère, souvenez-vous que ceci, cet enseignement, c'est uniquement pour mon Église. Vous devez toujours examiner ces bandes avant votre assemblée. Et si vous ne voulez pas que votre assemblée les entende, alors ne les laissez pas les entendre. Mais j'essaie simplement de m'exprimer à ce petit groupe ici, les gens dont nous nous efforçons, Frère Neville et moi, par le Saint-Esprit, d'être les pasteurs et à qui nous enseignons. Eh bien, il se peut que vous ne soyez pas du tout d'accord sur certains points. Si c'est le cas, comme je l'ai toujours dit au sujet de quelqu'un qui mange du poulet frit, quand vous tombez sur un os, vous ne jetez pas le poulet, vous jetez l'os. Alors, faites toujours cela. Si, en mangeant une tarte aux cerises, vos dents s'arrêtaient sur un noyau, vous ne jetteriez pas la tarte, vous jetterez simplement le noyau. Alors, faites la même chose quand vous écoutez ceci. Eh bien, je crois que la raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet du Saint-Esprit, c'est que l'enseignement n'a pas été donné correctement. Je crois qu'on enseigne le baptême et on dit simplement le baptême. Mais alors, c'est comme quand on dit automobile. Eh bien, il y a plusieurs mécaniciens dans cette église, et je ne connais rien à ce sujet. Donc, si je fais une erreur, frère, souvenez-vous que je ne suis pas un mécanicien. Il doit y avoir des bobines, des bougies, des vis platinées, des soupapes, et toutes ces choses qui constituent l'automobile. Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. D'accord? Voyez? Il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Et voici ce que je pense que Dieu est en train de démontrer. C'est ici que se trouve le Saint-Esprit. Voyez, or Pierre a dit que, premièrement, il y a la foi. Maintenant, soyez vraiment attentifs. Nous allons enseigner ceci pendant quelques minutes. La foi, c'est ce qu'il vous faut premièrement. Et joignez à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à votre tempérance la patience, à votre patience, la piété, à votre piété, l'amour fraternel, l'affection fraternelle, et ensuite, l'amour. Et tout le monde sait que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Voyez? Maintenant, alors, nous partons de là, et nous ramenons cela aux sept âges de l'Église. Dieu forme, en sept âges de l'Église, une épouse pour Christ, à travers l'âge de Philadelphie, de Thyatire, de Pergame, de Smyrne et d'Éphèse. Un âge de l'Église dont Jésus a dit que l'époux arrive à la première veille ou à la septième veille, toutes ces vierges se réveilleraient. Effectivement, elles se sont réveillées. Les vierges d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Aviez-vous remarqué cela? C'est dans le septième âge qu'il est venu et a réveillé ces vierges endormies. Donc, cela les englobe toutes, jusqu'ici, en bas. Voyez? Car c'est ainsi qu'au fil des ans, des âges, il a formé une épouse, donné naissance à une épouse, engendré une épouse sur la terre, pour Christ. Et de la même manière qu'il a engendré cette épouse, il a engendré des individus. Maintenant, je suis en train de mettre cela en contexte pour que vous puissiez comprendre quand on parlera du songe de la sœur. Maintenant, ces choses-ci doivent absolument se trouver dans le chrétien avant que le Saint-Esprit le scelle, avant que celui-ci descende là-dessus pour en faire une entité complète. Maintenant, voici le songe de notre sœur. Elle était inquiète, elle se demandait si elle avait le Saint-Esprit ou non, au moment où elle s'est allongée sur le canapé, où son mari était en train de lire un journal. Elle a, comme moi, de jeunes enfants, et ils font constamment du bruit et tout. Elle s'est donc endormie pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, et elle a eu un songe, et elle n'arrivait pas à le comprendre, à démêler tout cela, depuis presque un an, jusqu'à ce que ce message soit enseigné. Et pendant que j'enseignais cela, tout le songe lui est revenu. Elle a rêvé qu'elle était en prière. Elle faisait les 100 pas d'abord, avant qu'elle rêve. Elle se tordait les mains et se demandait, « Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Peux-tu me le prouver ?» Certains disent, « Parce que j'ai poussé des cris. » Ou encore, certains disent, « Parce que j'ai parlé en langue. » Et nous croyons toutes ces choses. Mais est-ce que je l'ai vraiment? Je crois à toutes ces choses, à ces vertus, au parler en langue, au cri de joie, à tout genre de démonstration. Je crois à tout cela. Mais si vous avez cela sans ceci, il y a quelque chose qui cloche. Voyez, là, voyez-vous, vous n'avez que l'enveloppe. Remarquez, elle était inquiète à ce sujet et elle s'est alors allongée sur le canapé où son mari était en train de lire et elle s'est endormie. Et elle a rêvé qu'elle se trouvait sur le sommet d'une montagne. Et sur cette montagne, le meilleur, je n'ai pas la copie devant moi, mais je pense que c'est comme ceci. Dans son songe, elle a vu un coffre en pierre, comme une charpente, posée sur le sommet de la montagne. Et son mari se tenait juste derrière elle. Et elle a vu un homme corpulent qui se tenait là, vêtu d'un vêtement de travail, les manches retroussées. Il versait l'eau la plus pure qu'elle ait jamais vue, en la déversant dans ce coffre en pierre qui était posé sur le sommet de la montagne. Et ce coffre en pierre ne retenait pas cette eau, elle se répandait hors de là. Elle ébouillantait toutes les impuretés, toutes les brindilles et tout ce qui s'y trouvait. Elle ébouillantait toutes ces choses et tout cela coulait vers le bas de la montagne. Et cela coulait sur les pieds de cette sœur. Elle se tenait en plein là-dedans, mais cela ne collait pas sur elle. Et alors, elle a demandé pourquoi le coffre ne retenait pas cela. Et l'homme lui a dit, « Ce n'est pas de l'eau, c'est le Saint-Esprit. » Et a-t-il dit, « Rien ne peut le retenir. » Et elle a dit qu'il est retourné et a pris un autre grand seau qui était rempli de miel. Il a versé du miel dans le coffre et a dit, « Maintenant, ça va retenir ceci. » Et elle pensait que ce coffre, qui était un coffre en pierre, allait se briser et répandre ce miel. Mais ça ne s'est pas brisé. Ça a finalement collé et ça l'a retenu. Elle s'est retournée et s'est mise à descendre de la montagne. En descendant de la montagne, elle s'est arrêtée au bas de la montagne et a regardé en arrière. Elle a vu 5 ruisseaux de cette eau pure et cristalline qui n'étaient pas contaminés par tout ce qu'elle avait traversé. Elle demeurait limpide et pure. Elle coulait rapidement. Ensuite, le flot a ralenti, puis cette eau a presque tari. Elle se demandait si cela pourrait atteindre le bas de la montagne, ces 5 ruisseaux. Et elle s'est réveillée. Je pense que c'est à peu près cela, n'est-ce pas, Sir Shepherd? Eh bien, à peine avais-je pris cette lettre, et l'avais-je ouverte, avant même que je la lise, j'ai vu son songe. C'est comme ça que les songes sont interprétés. Eh bien, beaucoup d'entre vous sont déjà venus me voir avec des songes, et vous m'avez dit des choses à propos des songes. Je vous ai dit, un instant, vous n'avez pas tout raconté, voyez? Et je suis revenu en arrière pour le capter. Alors, si vous ne pouvez pas raconter le songe, comment pouvez-vous savoir si son interprétation est juste ou pas? Voyez, vous devez voir le songe. Une vision doit montrer le songe. Et quand vous voyez le songe que la personne a eu et que vous êtes capable de le lui raconter avant qu'elle ne vous le raconte, alors vous en connaissez l'interprétation. Eh bien, je crois que c'est dans les Écritures aussi. Daniel, une fois, c'était bien ça, n'est-ce pas? Il a dit, « Oui, je crois que ça vient juste de me traverser l'esprit, voyez. Mais donc, vous verrez toujours le songe si l'interprétation est juste. » Quelqu'un commence à vous raconter un songe, vous pouvez l'arrêter, dire, « Un instant, il y avait aussi telle chose, il y avait telle chose et telle chose. » Puis vous dites, « C'est tout à fait exact, voyez. » L'autre jour, un homme essaye de me raconter un songe qu'il avait eu. Il a dit, « J'ai dit, eh bien frère, pourquoi avez-vous omis cette autre partie ?» Il a dit, « Quelle autre partie ?» J'ai dit, « Vous avez rêvé que vous avez lancé une pierre en l'air, que j'ai tiré dessus et que quelques fragments me sont tombés dans les yeux. » Il a dit, « C'est tout à fait vrai, frère Branham. » Et on en a retiré le dernier fragment hier. Ah oui, alors voilà. Voyez-vous, pourquoi, bien que vous n'ayez pas dit toute la vérité, voyez-vous, il la révèle toujours. Là, vous déclare votre songe, ce que vous avez rêvé, alors vous savez que c'est juste. Maintenant, voici l'interprétation de son songe. Elle était troublée au sujet du Saint-Esprit. Or, ce coffre qu'elle a vu au sommet de la montagne, c'était le roc. Le coffre en pierre, c'est le roc, la confession. Eh bien, comme Jésus l'a dit dans l'Écriture, il a dit, Pierre a dit, « Qui a dit Jésus ?» Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Élie, et Moïse, et ainsi de suite. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon, certains disent, l'Église catholique romaine dit que ce qu'était ce roc dont Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ils disent, c'était sur Pierre. Pierre était ce roc, parce que Pierre signifie « petite pierre ». Sur cette petite pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est sur Pierre la succession apostolique, qu'ils ont bâti l'Église. L'Église protestante, elle, dit, c'est faux, que c'était sur lui-même qu'il avait bâti l'Église. Eh bien, pas pour être en désaccord, mais moi, selon ma manière de voir, les deux ont tort, parce qu'il ne l'a jamais bâti sur Pierre, ni sur lui-même, mais sur la révélation qu'a eue Pierre de qui il était. Voyez, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas un séminaire, voyez, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es Pierre, sur ce roc de la confession, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Et depuis, chaque âge de l'Église a eu ce roc de la confession, jusqu'à ce roc de la confession de Laodicée. Maintenant, on ne peut pas produire une sainte Église. Il n'existe pas de sainte Église ou de sainte organisation. Le Saint-Esprit peut y être prêché, mais là-dedans, vous trouverez des bons et des méchants, des renégats, des indifférents et tout. Donc, une organisation ne peut pas tenir. Vous ne pouvez pas dire, c'est nous qui l'avons, personne d'autre ne l'a. Non, monsieur, le Saint-Esprit est répandu sur des individus. Il s'agit de l'individu. Ainsi donc, le roc, cette église pentecôtiste des derniers jours, qui a reçu le Saint-Esprit, c'est ce que les autres avaient reçu au commencement. Tout au long des âges, les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais pas dans la mesure qu'on l'a maintenant, parce que c'est la restauration du commencement. Comme nous l'avons vu pour les chandeliers, l'alpha et l'oméga, on avait allumé la première chandelle. Elles ont brillé de plus en plus fort, puis se sont assombries de plus en plus. Et finalement, cela est revenu de nouveau. Voyez, la première et la dernière, et ainsi de suite. Or, voilà, dans cet art de l'Église, si, le message est en train d'être déversé dans l'Église, mais le corps de l'Église lui-même, dans son ensemble, comme ce tabernacle, disons, c'est cette Église qu'elle fréquente, ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. Une telle chose n'existe pas. Ce sont les individus qui fréquentent cette Église, qui sont les tabernacles du Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit, mais pas l'Église en tant que corps, en tant que groupe. C'est pourquoi il s'échappe de celle-ci. Mais là, cet homme qui versait de l'eau, le messager de l'Église, déversait le message dans l'Église. Mais que faisait cette eau? En bouillonnant, elle en faisait sortir toutes les impuretés. C'est ce que fait le Saint-Esprit. En bouillonnant, il élimine tout cela. Le miel, lui, représentait l'amour fraternel, l'affection fraternelle, c'est-à-dire cet âge-ci. Je viens d'en parler, voyez, de l'affection fraternelle, l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Bon, vous pourriez peut-être dire, écoutez, je n'aime pas du tout Frère Neville, ou je n'aime pas du tout Frère Jones, je n'aime pas Frère Untel, et des choses de ce genre. Mais attendez que quelque chose lui arrive, frère. Vous aurez le cœur brisé. Cela va vous tuer, presque. Voyez, nous pouvons avoir l'affection fraternelle et des sentiments les uns vers les autres. Voyez, mais maintenir cela dans un groupe de personnes. Pourquoi vous souciez-vous de ce frère? Parce que vous avez rompu le pain avec lui ici devant l'autel, comme vous le ferez ce soir. Vous avez été en communion avec lui. Vous lui avez serré la main. Vous adorez avec lui. Il est votre frère. Il se peut qu'il fasse quelque chose dans la chair que vous n'approuvez pas. Et alors, vous vous retirez un peu, ce que vous ne devriez pas faire. Vous l'évitez un peu. Mais au fond de votre cœur, si quelque chose arrivait à ce frère ou à cette sœur, cela vous tuerait presque. Je suis un vieil homme. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. J'ai vu cela arriver tout au long de cet âge. J'ai entendu des gens dire, je ne veux plus jamais avoir affaire avec lui. Et si quelque chose arrive à cette personne, cela le tue presque. Il se met à penser, oh Dieu, j'ai laissé partir mon précieux frère sans me réconcilier avec lui. Voyez-vous, voyez, c'est l'amour fraternel. On dirait que ça ne va pas tenir, mais ça tient. Le miel, ça tient. Eh bien, comme elle venait de là et qu'elle descendait de la colline pour aller au bas de la colline, alors cette glorieuse eau qui jaillissait des collines se répandait par 5 ruisseaux. Or, 5, c'est le nombre de la grâce. J-A-S-U-S, F-O-I, en anglais, faith, G-R-A-C-E. Voyez, 5, c'est le nombre de la grâce. 5 ruisseaux se déversaient du bac, là-haut, jusqu'ici, en bas. Chacun de ces âges avait ce roc de la confession. Les saints dorment. Ils ont attendu, 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 voyez, jusqu'à cet âge-ci. Mais bientôt, ce Saint-Esprit qui est répandu, qui provient de Christ, viendra sceller l'Église. Alors l'Église sera enlevée. Elle sera alors une entité complète de Dieu, une épouse pour Christ, qui sera le chef de tout. Vous me suivez maintenant? Donc, elle se posait des questions. Et dans son songe, elle se posait cette question. Est-ce que ce petit ruisseau coulera jusqu'en bas? Voyez, il s'asséchait. Eh bien, étant donné qu'elle-même, voici donc ce que je veux que vous saisissiez. Elle se posait des questions au sujet d'elle-même. Elle se demandait, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Eh bien, j'ai évité de dire ceci il y a quelques jours, en pensant que l'Église serait assez spirituelle pour le saisir. Et peut-être que je ferais mieux d'arrêter l'enregistrement en ce moment, parce que je ne voudrais pas que ceci se retrouve parmi les frères. Mais voici, on peut parler en langue, on peut pousser des cris, on peut danser, on peut chasser des démons, faire tout ce qu'on veut, sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Les disciples n'étaient-ils pas revenus en se réjouissant et en poussant des cris parce que les démons leur étaient soumis? Et Jésus, parmi eux, n'y avait-il pas Judas? Jésus n'a-t-il pas dit, en ce jour-là, où il reviendra, que plusieurs viendront à moi en disant, « Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons et fait des œuvres puissantes par ton nom? Je dirais, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai pas connu. » Ces choses ne sont pas des indications du Saint-Esprit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, vous dites, frère Branham, devrions-nous parler en langue? Absolument. Ce sont des dons de Dieu. Mais d'avoir ces dons de Dieu, sans ces vertus, produit une pierre d'achoppement pour l'incroyant. Cela n'est pas accepté par Dieu. Ceci devrait être là premièrement. Et quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle en tant qu'entité, tout comme il scelle les âges de l'Église en tant qu'entité. La manière dont il forme son épouse, c'est de la même manière qu'il forme son individu. Ils sont faits de la même matière, comme Ève était faite d'Adam, une côte prise de son côté. Voici ce que vous devez avoir premièrement. Vous ne pouvez pas simuler ces choses. Vous ne pouvez pas imiter ces choses. Elles doivent être envoyées de Dieu, nées de Dieu. L'imitation ne fera que produire de la confusion. C'est comme ce que je disais. Pourriez-vous imaginer une buse perchée là, avec des plumes de colombe plantées dans ses ailes, disant, voyez, je suis une colombe. Elle n'est pas une colombe, elle est une buse, un vautour. Pouvez-vous imaginer un merle qui a une plume de paon dans ses ailes et qui dit, voyez, ça, c'est quelque chose qu'il a appliqué sur lui. Mais cela doit venir de l'intérieur vers l'extérieur et produire le christianisme. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Notre sœur avait les pieds mouillés quand elle est arrivée en bas. Nous connaissons tous Sœur Shepherd comme quelqu'un de charitable. Sa maison est ouverte. Le frère et elle, peu importe si c'est un clochard, un mendiant ou quoi que ce soit, ils lui donneront à manger et feront tout ce qu'ils peuvent pour lui venir en aide. Oh, Dieu a accepté cela, ce fondement qu'elle a. Et voici maintenant, saisissez cette leçon. Voici ce qui ne va pas avec le... Ceci, je vais l'enregistrer. Voici ce qui ne va pas avec le Branham Tabernacle. Voyez-vous, il y a deux sortes de foi, il y a deux sortes de vertus, comme je le disais l'autre jour, deux sortes de connaissances, deux sortes de tempérance. Certains croient l'avoir par la prohibition. Ce n'est pas la sorte de tempérance dont Dieu parle. Il s'agit de votre tempérament impie et incontrôlable, et des choses de ce genre qui font que vous êtes prompt à réagir, à vous quereller. Quant à la patience et tout, il en existe des parodies, des faux-semblants. Il y a une foi donnée par la nature, une vertu donnée par la nature. Il y a une tempérance donnée par la nature. Toutes ces choses données par la nature. Et la plus grande partie de notre foi, c'est la foi mentale. L'écoute de la parole nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela qui vient d'en haut, ô frère, si jamais cela frappe ceci, il y aura une foi spirituelle à caractère divin. Alors, cette foi-là, que fait-elle? Cette foi ne reconnaît que la parole. Peu importe ce que dit toute autre chose, cette foi ne reconnaît que la parole. Parce que, voilà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole reste toujours Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et quand la parole elle-même se déverse dans notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Sur ce fondement, je bâtirai mon Église. Voyez ? Non pas sur une conception mentale d'adhésion à l'Église, ni une conception mentale de cela, mais sur la révélation, après que les ruisseaux de la grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous avez. Alors, sur ceci, une révélation spirituelle, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Voyez, cela montre qu'elles seraient contre elle, mais elles ne prévaudront jamais. Oh, que c'est glorieux! Alors, voyez, la foi, ces cinq ruisseaux. J'avais un morceau de craie là, mais je pense qu'il ne l'a pas apporté. Mais les cinq ruisseaux, vous voyez, qui coulent ici, ils cimentent tout ceci ensemble. C'est le Saint-Esprit qui a formé l'église d'Éphèse. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'église de Smyrne. C'est le Saint-Esprit qui a produit l'église de Pergame et l'église de Thyatire dans l'âge des ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui a bâti cette épouse, cette élue qui a été retirée de tous les systèmes d'organisation tout au long des âges. Comme ça, il y a une élue, une épouse prédestinée de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit a appelée à sortir, l'élue. Et c'est le Saint-Esprit, dans cet âge-ci, cet âge-là, celui-là, 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 jusqu'au sommet, le Saint-Esprit. Et maintenant de même, dans des individus, ces vertus et tout, qui sont la connaissance et la tempérance, sont jointes à notre foi. Alors, quand la pierre de fête vient, le Saint-Esprit cimente tout cela ensemble. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que c'est si rare aujourd'hui. Laissez-moi voir. J'ai pris quelques notes ici. Voyons un peu. J'ai fait un dessin ici pour illustrer son songe. Voyez, vous ne pouvez pas voir cela là-bas. Or, ce qui vient du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient? Eh bien, il vous donnera une foi surnaturelle, une foi spirituelle, ce qui est ici, à la base. Et cette foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Peu importe ce que quiconque dit, ça ne sert à rien. Elle ne connaît rien d'autre que la parole. Si quelqu'un dit, les jours des miracles sont passés, cette foi ne connaît rien d'autre que la parole. Quelqu'un dit, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Cette foi ne connaît rien d'autre que la parole. Ça, c'est la véritable foi spirituelle. Voyez-vous, c'est vrai, voyez, elle ne connaît rien d'autre que la parole. Alors, c'est ça en premier. Premièrement, ce qui vient à vous, à votre foi mentale, qui est juste ici, c'est le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Ensuite, la foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Et deuxièmement, troisièmement, alors vous aurez ce qui est spirituel. Vous aurez le Saint-Esprit qui scellera toutes ces choses en vous. Car ce Saint-Esprit couvrira ceci. de votre foi jusqu'au Saint-Esprit, vous êtes scellés en Christ. Vous devenez alors un. Amen. Débarrasse-moi de ceci. C'est lourd pour les bras. Vous devenez un. Voyez-vous, vous et Christ, vivez ensemble. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Voyez ? Alors là, c'est une entité scellée du Seigneur Dieu. Voilà. Ils sont alors confirmés et placés. Quand ce moment arrive, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. Vous souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, du verset 1 au verset 5, Jésus sur la montagne de la Transfiguration, vous avez déjà entendu, écoutez-le, le sermon que j'ai prêché là, il y a environ un an, et qui est devenu très populaire, écoutez-le, le placement d'un fils, ce qu'on trouve aussi dans Éphésiens 1, 5. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Voyez, quand un fils naît dans une famille, déjà là, c'est un fils. Mais alors, ce fils avait des précepteurs qui étaient chargés de l'élever. Et si ce fils ne devenait jamais un bon fils, il ne serait jamais héritier. Mais s'il était un bon fils, un fils qui obéit à son père, alors ce fils était adopté ou placé dans sa position. Il devenait héritier des biens de son père. Et c'est ce que Dieu faisait sur la montagne de la Transfiguration, quand il a pris son propre fils, après qu'il avait été démontré qu'il était un bon fils, voyez, qu'il avait supporté toutes les tentations. Alors, il l'a amené sur la montagne de la Transfiguration et l'a couvert de son ombre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on prenait un fils, on lui mettait un beau vêtement et on le présentait devant le public. Alors, on procédait à la cérémonie de placement, ce que nous appelons l'adoption. Là, dans Galates, je pense que Paul appelle cela « adopter des fils ». Mais le placement du fils, les ministres comprennent ce terme, de même que les lecteurs spirituels de la Bible, le placement de ce fils. Autrement dit, le fils était un fils à sa naissance. C'est là que nos pentecôtistes ont commis leur erreur. On est dans la famille par le Saint-Esprit, c'est exact. Mais il faut ensuite que nous soyons de bons enfants, enseignés par le précepteur idéal. Voyez, maintenant, dans les temps anciens, si un homme pensait à son fils et voulait qu'il soit un bon fils, il recrutait le meilleur précepteur qu'il pouvait trouver, le meilleur enseignant, parce qu'il voulait que son fils grandisse et devienne comme son père. Voyez, alors, il recrutait le précepteur idéal. Eh bien, si un homme terrestre pouvait penser au meilleur précepteur, qu'en est-il de Dieu, notre Père? Alors, il n'a jamais recruté des évêques, des cardinaux, des prêtres. Il nous a donné le Saint-Esprit comme précepteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Il est dans l'Église. Il présente son rapport au Père. Mais si le Père ou le précepteur venait dire, « Eh bien, Père, or, il n'aurait jamais recruté un jour de précepteur qui désire recevoir des honneurs, une plume à son chapeau, comme on dit, se disant, « Oh, si je dis quelque chose au Père au sujet de... Ce petit garçon est un renégat de toute façon. Mais si je dis ceci au Père... Le Père pourrait me donner une augmentation. » Ça, ce n'est pas le genre de précepteur qu'il faut. Le précepteur qu'il faut est honnête. Il dit la vérité. Et le Saint-Esprit dit la vérité quand il se présente devant Dieu à notre sujet. Oui. Donc, il se présente là. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, il rougirait en disant, « Tes filles se coupent toutes les cheveux. Pourtant, tu le leur as défendu. Les pensées de tes fils sont tellement orientées vers les organisations qu'ils ne peuvent pas se supporter les uns les autres. » C'est vrai. Et ils adoptent ceci à la place de ceci, et ceci à la place de cela, comme il doit rougir. Mais combien ce précepteur aimerait venir dire, « Oh là là, ce fils, c'est un vrai fils. Il est vraiment comme son père. Oh, combien il aimerait dire cela. » Voyez, alors le père, rempli de fierté, dirait, « Celui-ci est mon fils. » C'est exactement ce que Dieu a fait sur la montagne de la Transfiguration. Remarquez, là sont apparus Moïse et Élie. Et Pierre était surexcité. Le surnaturel s'était produit. Pierre, surexcité, a dit, « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, Dieu l'a fait taire. Il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Voyez, Dieu s'est mis en retrait et a dit, « Celui-ci est mon fils. » Moïse représentait la loi, Les prophètes représentaient sa justice. Nous ne pouvions pas vivre en accord avec sa loi. Nous ne pouvions pas vivre en accord avec sa justice. Je ne réclame pas la justice. Je veux la miséricorde, pas la justice. Je ne peux pas garder sa loi. Je ne peux pas accomplir sa justice. Mais j'ai besoin de sa miséricorde. Et Dieu a dit que la loi et la justice ont été accomplies en lui. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le voilà, c'est lui. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce fils était adopté ou placé dans la famille, son nom était tout aussi valable sur le chèque que celui de son papa. Oui, monsieur. Il n'y avait pas de... Il y avait un anneau en ce temps-là, un signe, un cachet. Et il... On crachait dessus et on l'appliquait. C'était le cachet. C'était tout aussi... Il portait l'anneau de son papa, son cachet. Et c'était tout aussi valable que celui de son papa. Maintenant, comme Jésus avait été obéissant, Jésus envers Dieu, alors Dieu l'a placé dans sa position. Le voici. Maintenant, quand un membre est né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu et qu'il a démontré qu'il a en lui ses vertus, de sorte que Dieu peut voir en lui la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'amour fraternel et la piété, alors Dieu le scelle ou le place. Et c'est là qu'on voit des fils et des filles de Dieu. Alors, Éphésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Bon, certains d'entre vous, les baptistes, vous qui voulez mettre en avant la sécurité éternelle, eh bien, si vous arrivez à ce stade-là, vous aurez mon soutien. Vous avez la sécurité éternelle si vous arrivez à ce niveau-là. Mais s'il suffit juste de dire, si quelqu'un dit, « Je suis membre de l'Église baptiste, je suis presbytérien, j'ai la sécurité éternelle. » C'est faux. Votre propre vie démontre que vous ne l'avez pas, tant que vous n'avez pas ceci. Et si Dieu vous a adopté et vous a scellé par le Saint-Esprit dans son royaume, alors il n'y a plus moyen d'en sortir. Vous avez la sécurité pour l'éternité. Croyez, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous et toutes vos vertus divines avaient été scellées jusqu'au jour de la rédemption. Je crois qu'il y a une épouse qui a été prédestinée. Je crois que Dieu a dit qu'il aurait une église sans tache ni ride. Je crois à la prédestination, que l'épouse a été prédestinée. Elle sera forcément là-bas. J'espère que j'y serai avec elle. C'est ça, voyez, que j'y serai avec elle. Alors, il m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu, jusqu'à ce que ces choses aient été approuvées de Dieu, et ensuite scellées dans le royaume de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Voilà les véritables œuvres de Dieu, scellées jusqu'au jour de la rédemption. C'était ça son songe. Je l'ai trouvé magnifique. Ainsi donc, une fois qu'elle l'a fait, que l'Église est arrivée à ce niveau où l'individu, eh bien, l'Église sera forcément là-bas. Permettez-moi de le dire très clairement pour que vous le saisissiez. L'Église a été prédestinée à être là-bas. Je désire y être avec elle. Mais le seul moyen pour moi d'y être avec elle, c'est d'en faire partie. Comment puis-je en devenir une partie en étant à l'intérieur? Comment puis-je y entrer? Par un baptême, par un seul esprit. 1 Corinthiens 12, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Un seul corps, on y entre par le baptême. Mais vous ne pouvez pas vous appliquer ces petites choses et dire, j'ai parlé en langue, je l'ai. Vous sortez là, vous vous mettez en colère, vous proférez des jurons et vous vous conduisez mal. Voyez, ça, c'est mettre des plumes de paon dans un jet. Voyez, vous ne le pouvez pas. Votre propre vie démontre qu'il n'en est rien. Mais quand ces choses agissent en vous par Dieu, alors vous êtes scellé. Alors, ce n'est pas artificiel. Vous êtes vous-même, c'est tout. C'est là que les visions, ce qui est parfait, le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu, tout se manifeste. Pourquoi? Parce que vous et Christ devenez un. J'espère que c'est compris. Vous et Christ devenez un. J'avais noté autre chose ici, sur quoi je voudrais faire porter ma réflexion. Cela nous amène au lieu où se trouve la vie. Vous devenez alors, vous avez la vie éternelle. Eh bien, j'ai le lexique grec ici. le emphatic diglotte. J'ai étudié un mot l'autre jour. Maintenant, dans Jean 14 ou Jean 3, 16, nous voyons qu'il y a un endroit où il est dit « avoir la vie perpétuelle ». Un autre endroit, il est dit « avoir la vie éternelle ». Mais en grec, dans la version grecque, en hébreu, il est dit « la vie sans fin ». Le mot grec s'écrit « A-I-N-I-O-A-N ». C'est presque comme aion. Aion, c'est une durée qui ne peut pas, un nombre qui ne peut pas être compté. C'est au-delà des millions, des billions, des milliards. Mais ici, ce sont des aionios de temps, la vie éternelle. Et le mot anglais pour ça, c'est éternel. Nous connaissons cela comme étant éternel, aionios, ou la vie sans fin. Voyez, et si vous avez la vie sans fin, comment pouvez-vous périr? Vous êtes devenu une partie de ce qui est éternel. Et il n'y a qu'une chose qui est éternelle. Satan n'est pas éternel. Non, il est devenu Satan. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer a été créé. Il n'est pas éternel. Et nos corps ne sont pas éternels. Ils ont été créés. Mais l'Esprit de Dieu est éternel. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Et le seul moyen pour nous d'avoir la vie éternelle, de ce mot grec « zoé » qui signifie « la vie même de Dieu », c'est que nous ayons, que nous devenions une partie de Dieu, en devenant des fils et des filles de Dieu. Et nous avons alors la vie « aionios ». Donc, la partie qui vit, nous, qui reconnaît cette parole, d'ici à là, qui la reconnaît, c'est la vie « aionios », la vie sans fin. C'est la vie de Dieu lui-même en nous. Amen. L'autre jour, au cours d'un voyage, j'ai eu une discussion avec un témoin de Jéhovah. Eh bien, je ne dis pas ça pour moquer d'égard envers la foi de qui que ce soit. Il y a de nombreux témoins de Jéhovah reconvertis qui sont assis là parmi nous. L'un des administrateurs de notre église était témoin de Jéhovah. Il l'était, et il était sauvé, lui et sa famille. Son père était un lecteur, Frère Wood et les autres. Maintenant, tous ses frères et sœurs, presque tous sont venus et ont reçu le Saint-Esprit à cause des visions de Dieu qui ont révélé ce qu'ils avaient fait. Et ce qu'ils, voyez, c'est ce qui a produit ce résultat. Eh bien, mais ici, dans le livre des témoins de Jéhovah, il est dit que le souffle que vous respirez, c'est l'âme. Or, cela ne peut pas être juste. Le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. Si c'était le cas, vous seriez, à un certain moment, vous seriez une certaine âme, et à un autre moment, vous seriez quelqu'un d'autre pour avoir respiré cette âme-là. Regardez où ça vous mènerait. Eh bien, le souffle, c'est le vent, et le vent, c'est ce que vous respirez par vos narines. Or, eux, ils prennent l'Écriture qui dit « Et Dieu souffla dans ses narines un souffle, et il devint une âme vivante. » Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. S'il était un homme, quelle sorte de souffle respirait-il avant que Dieu souffle en lui son souffle de vie? Voyez, quelle sorte de souffle? Il était un homme vivant qui respirait. Eh bien, s'ils ont raison, alors chaque animal est une âme vivante, parce qu'il respire l'âme humaine, nos âmes et tout le reste. Alors Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Le sacrifice des animaux aurait été suffisant. Voyez, donc frère, cet argument ne tient pas la route. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a soufflé le souffle de la vie éternelle. Amen. Et il est devenu une âme vivante, une âme qui ne peut pas mourir. Eh bien, regardez maintenant, nous allons nous enfoncer dans le miel jusqu'au coude. Remarquez, il a soufflé le souffle de la vie éternelle dans ses narines, et il est devenu une âme éternelle. Car Dieu a soufflé, ce n'est pas ce que la nature a fait, mais ce que Dieu a fait. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Alors vous me direz, Adam est mort, frère Branham. Mais souvenez-vous, avant qu'Adam meure, il y a un agneau qu'il avait racheté. Alléluia! Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il a pris un agneau pour les racheter. Il était un type. Adam est tombé. Ensuite, l'agneau était pourvu pour Adam. parce qu'il avait déjà reçu dans ses narines le souffle du Dieu éternel et qu'il était devenu une âme vivante. Il était un fils de Dieu, pas son souffle, dans le sens du mot africain. Je ne connais pas le mot grec pour ça en ce moment, mais le mot africain qu'ils emploient, c'est amoya, qui signifie le vent, une force invisible. Les animaux respirent l'amoya. Les pêcheurs respirent l'amoya. Pourquoi donc luttons-nous pour la vie éternelle? Si ce qui entre en nous par la respiration, c'est l'âme éternelle. Pourquoi luttons-nous pour la vie éternelle? Ça vous retombe sur le nez, frère. Voyez, ça ne peut pas se faire. Mais Dieu a particulièrement soufflé sur Adam le souffle de la vie éternelle. Il est devenu une personne éternelle auprès de Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. Il était un Dieu amateur. Il était le Dieu de la terre, pas le Dieu du ciel, là, le Dieu de la terre. Et un jour, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Jésus l'a dit, n'est-il pas écrit dans vos lois, « Vous êtes des dieux » Si vous pouvez appeler Dieu ce qu'il a appelé, ce que Dieu a visité, comment pouvez-vous me condamner de dire que je dis que je suis le Fils de Dieu? Voyez, maintenant nous entrons dans quelque chose de profond. Alors observez ceci, quand nous allons enfoncer le clou. Donc, les voilà, il est maintenant un fils de Dieu, mais il commet une erreur. Il sait qu'il fait ce qui est mal. Rappelez-vous là, Adam n'a pas été séduit. La Bible dit, 1 Timothée 3, ce n'est pas Adam qui était séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Adam est allé avec Ève, parce qu'elle était sa femme. De même, Christ n'a pas été séduit par Satan, mais il est allé avec l'épouse dans la mort. Il est allé accompagner l'épouse afin de pouvoir racheter l'Église. Adam, sachant très bien qu'il agissait mal, il est allé et a accompagné Ève, voyez. Mais un agneau avait été pourvu pour eux afin de les racheter. Et aujourd'hui, pour ces agneaux qui avaient été connus d'avance par Dieu et que Dieu a appelés, il y a un rédempteur. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Pas vrai? Donc, un agneau a été pourvu dès la fondation du monde, où leurs noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau. Un agneau a été pourvu pour ouvrir la voie de la grâce, afin qu'ainsi chacun d'eux puisse participer à la résurrection. Un agneau a été pourvu, l'agneau d'Adam. Remarquez bien, tout comme un agneau avait été pourvu pour Adam. Eh bien, c'est l'Église aujourd'hui. Je ne veux pas dire l'Église. Vous savez quoi? Je ne dis pas ceci pour être sacrilège, et je ne le dis pas pour blesser qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour ça, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je suis ici pour aider, mais ce que j'essaie de faire, vous savez quoi? En fait, toutes ces églises ne sont pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Tout le reste, ce sont des clubs. Voyez, ce sont des clubs. Je n'ai rien, c'est très bien. Mais je veux vous le prouver dans quelques instants, que ce sont simplement des clubs. Vous êtes membre du club méthodiste, du club presbytérien, ou même, en fait, du club pentecôtiste. Ah oui, des clubs, voyez, vous ne pouvez pas. Voyez, les églises sont en réalité des clubs, où les gens qui partagent les mêmes idées se rassemblent. Mais l'église, il n'y en a qu'une. Et vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous y naissez. Et quand vous y naissez, vous en êtes membre. Tout comme ma famille. Ça fait 53 ans que je fais partie de la famille Branham. On ne m'a jamais demandé d'adhérer à cette famille. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'adhérer à cette famille. Je suis né un Branham. Et vous naissez dans l'Église. Et toutes les autres, ce sont des clubs. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Oui, monsieur. Un jour, j'étais en train de tondre le gazon, et je pensais à, disons, la grande et sainte Église catholique, comme on l'appelle. Je pensais à ça, tout en tondant le gazon, et quelque chose m'a arrêté net, et a dit, « N'appelle pas cela ainsi. » J'ai regardé tout autour de moi, j'ai recommencé à tondre le gazon. Une fois de plus, cela m'a arrêté, et a dit, « Ne les appelle pas ainsi. » Il a dit, « Ils sont un club, comme les autres. Ils ne sont pas l'Église. Il n'y a qu'une seule Église. » Voyez? Ils sont membres d'un club, car on peut adhérer à un club. mais on ne peut pas adhérer à l'Église. L'Église, on y naît, on en devient membre par la nouvelle naissance. On devient alors un membre de la famille, un frère ou une sœur qui en fait partie. Maintenant, permettez-moi de vous lire quelque chose ici, dans le Emphatic Diglot, Apocalypse 17.3 de l'Apocalypse, selon le Emphatic Diglot, que voici. Et regardez bien ce qui est dit là. Oh, oh, cela concorde merveilleusement bien avec ceci. Apocalypse 16.17. Très bien. Maintenant, lisons ici, juste un instant. Écoutez ceci très attentivement. Apocalypse 17.3. Et l'un de ces sept anges qui tenait cette coupe vint et me parla. Je vous lis cela du lexique, qui tenait, « Viens, je te montrerai le jugement de cette grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. » Et nous savons tous qu'il s'agit du Vatican. Nous avons là notre visiteur du dimanche, édité par l'Église catholique, qui nous déclare que c'est exactement cela. Voyez. Et comme réponse à ce sujet, il m'a été dit, mais attendez un instant, il a dit, il y a eu toutes sortes de noms, il a dit, qui pourraient faire 666. J'ai dit, mais un instant, il a dit, votre nom pourrait faire 600. Mais j'ai dit, par contre, je ne suis pas assis sur cette colline à gouverner le monde, voyez-vous? Ah oui, voyez, c'est exact. Voyez, te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Les eaux, Apocalypse 17-15, ce sont la masse et les foules de gens. Voyez, c'est avec elles que les rois de la terre se sont livrés à des impudicités. Et c'est du vin de cette son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ensuite, quoi? Et il me conduisit en esprit dans un désert. Ça, c'est le Emphatic Diglot. Voyez, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms blasphématoires. Or, dans la version du roi Jacques, il est dit « pleine de noms de blasphème ». Juste un instant, et je vais retrouver cela ici, juste une minute. Apocalypse 3, très bien, le voici, très bien. Je voulais dire Apocalypse 17, et non 7. 17. Maintenant, écoutez le verset 3. « Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. » C'est de cette manière que c'est dit en anglais. Mais la version originale en grec, qui se trouve dans le Diglot, rend cela comme ceci. Apocalypse 17.3. Écoutez. « Et il me conduisit en esprit dans un désert. » Et je vis une femme assise sur une bête, bête de couleur écarlate, pleine de noms blasphématoires. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Qu'en est-il? Et nous? Eh bien, elle était la mère des prostituées. Nous savons tous cela. Mais de quoi s'agit-il? On n'a pas besoin d'être. Eh bien, c'est exact. Cela inclut l'Église catholique romaine. Mais elle est pleine de noms blasphématoires. Méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes. Elles disent toutes être des églises de Dieu. Des noms blasphématoires. Il y a une grande différence entre des noms de blasphème et des noms blasphématoires. Elles se donnent le nom, Église de Dieu, et elles se représentent ainsi devant le monde. Des parties de cartes, de la boisson, des mauvais comportements, des soupers où on sert de la soupe, et ainsi de suite. Tout est permis. Il n'y a qu'une seule Église. On y naît. On n'y entre pas tant qu'on n'a pas été lavé dans le sang de l'agneau et scellé par le Saint-Esprit. Il y a toute une différence entre des noms de blasphème et des noms blasphématoires. Vous comprenez? J'ai saisi cela ce matin, quand je lisais le... En venant ici, quelque chose m'a dit, « Va dans ton bureau et prends le Diglot. » Eh bien, par simple obéissance, voilà, je suis entré, j'ai ouvert Apocalypse 17. Je me suis dit, « Pourquoi veux-tu que je lise cela ?» Je me suis mis à lire. Aussitôt que je suis tombé dessus, c'est ça. J'ai pris un crayon et je l'ai noté. J'ai dit, « C'est ça. » Et là, les gens rouspètent parce que je proteste contre les organisations. Il s'agit de ces noms blasphématoires. Elles se disent « Église de Dieu »,« Église de Christ », »,« Église méthodiste » et tout. Ce sont des clubs et non des églises. Il y a une seule église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est? C'est le corps mystique de Jésus-Christ qui est en action sur la terre. Constituer des membres de n'importe laquelle de ces assemblées, de ceux qui veulent être des membres du corps de Christ. On doit y entrer par une naissance et non par une adhésion, et d'adhérer à celles-là qui sont des noms blasphématoires. Cette femme, sa puissance. Et vous voyez maintenant qu'il se propose de prendre tous ceux qui ont des idées bizarres au sujet de la religion. et de les envoyer en Alaska. Vous avez vu cela, toutes nos croyances bizarres. Et qu'est-ce que c'est? Le concile, le conseil mondial des églises et les catholiques, ils ont leur grand rassemblement en ce moment, là-bas, au Vatican, où ils essayent, tous ces évêques et tout, ils essayent de s'entendre afin de combattre le communisme. Le monde combat le communisme, mais en fait, il ne fait que se joindre au catholicisme. Et c'est comme ça aujourd'hui. Nous y voilà, comme je l'ai dit. Nous sommes presque en faillite. Nous empruntons et dépensons de l'argent maintenant en comptant sur des impôts qui seront payés dans 14 ans. C'est là où nous en sommes. Qui détient l'argent du monde? L'Église catholique. Dans quel but prêtera-t-on cela aux États-Unis pour préserver ces entreprises qui fabriquent du tabac, du whisky et tout? Certainement, ils ne leur emprunteront. Quand ils feront cela, ils vendront directement leurs droits d'aînesse à l'Église catholique romaine. Nous nous unissons. Observez ceci. C'est très clair. Plus clair que de lire un journal. Voilà, voyez, elles sont méthodistes, baptistes, presbytériennes et ainsi de suite. Elles se donnent pour nom l'Église de Dieu, les catholiques et tout ce genre de choses. C'est cette puissance de la bête, pleine de noms blasphématoires, de vous donner ce nom en disant « Je suis ». J'ai dit « Je suis allé à l'hôpital, là-bas, il n'y a pas longtemps. J'y allais pour prier pour une personne. J'ai dit « Nous allons ». C'était ma mère. J'ai dit « Nous allons prier pour ma mère ». Et l'autre dame a dit « Tirez ce rideau ». J'ai dit « N'êtes-vous pas chrétienne ?» Elle a dit « Nous sommes méthodistes ». J'ai dit « Merci ». Je pensais que vous étiez peut-être une croyante. J'ai simplement tiré le rideau autour de moi. Voyez. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, là, c'est autre chose. Voyez. Mais nous sommes méthodistes. C'est un blasphème. La bête, les églises, ce qu'on appelle les églises, ce ne sont pas des églises. Je veux m'assurer que cela a bien été enregistré. Oui, ce ne sont pas des églises, ce sont des clubs. Les gens y adhèrent. Mais vous ne pouvez pas adhérer à l'Église du Dieu vivant. Vous y entrez par une naissance, par le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ces vertus sont scellées en vous par le Saint-Esprit. Et donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne le peut pas. Voilà, c'est ça. Oh là là, nous pourrions en parler toute la journée, n'est-ce pas? L'Église, c'est le corps mystique de Christ, né du souffle de Dieu. Brrr. L'avez-vous saisi? L'Église de Dieu est née du souffle de Dieu. Dieu a soufflé son souffle dans les narines d'Adam, spirituellement. Il est devenu une âme vivante. Saviez-vous que les pentecôtistes, ou la véritable Église pentecôtiste, est née du souffle de Dieu? Permettez-moi de prendre un instant pour vous lire quelque chose là-dessus. Laissez-moi voir un instant. Jean, je crois, c'est là que je vais lire. Nous verrons si l'Église de Dieu l'est, oui ou non. Jean, voyons un peu. Je crois que c'est 16, 19, 20. Très bien. Voilà. Je crois que nous trouverons cela ici. Très bien. Je vais vous le lire. Et voyons si, oui ou non, l'Église est née du souffle de Dieu, comme Adam l'était au commencement. Observez. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, où les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Observez, le Père qui l'a envoyé, il était là, en lui. Et Jésus, quand il envoie un disciple, il est là, en lui. Celui-là même qu'il a envoyé, Dieu, après ces paroles, il souffla sur eux et dit, « Recevez le Saint-Esprit. » L'Église née du souffle de Dieu, quand cette stature est façonnée là et qu'elle est prête, le souffle de Dieu souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit et vous êtes alors un fils de Dieu. Vous pouvez adhérer à tout ce que vous voudrez, mais dans l'Église de Dieu, on y entre par une naissance. Cette naissance, c'est par le souffle de Dieu. Dieu a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Oh là là, voilà, c'est ça. Non pas, venez adhérer, inscrivez votre nom ici, avec vos soupers où on sert de la soupe et tout ce qui va avec. vous adhérez à un club. Vous pouvez adhérer à un club méthodiste, un club baptiste, un club presbytérien, un club catholique ou un club pentecôtiste. Il y a tout ce à quoi vous voulez adhérer, mais vous adhérez quand même à un club. En revanche, quand vous devenez un enfant de Dieu, vous naissez du souffle de Dieu. Amen. Maintenant, je ferai mieux de ne pas aller plus loin là-dessus. Très bien. Alors, la vie de Dieu se trouve aussi en vous. Jésus l'a dit. Un instant. Jésus l'a dit. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Maintenant, regardez. Pourquoi cherchait-il querelle à Jésus? Il cherchait querelle à Jésus parce qu'il était un homme qui se faisait Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Voyez? Et il leur a dit, ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi, c'est mon Père, et il demeure en moi. Oh, voyez? Or, eux, ils regardaient à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez? Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était à l'intérieur de ce corps. C'était Dieu. Il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Mais qui de vous peut me déclarer coupable de péché, d'incrédulité à l'égard de la parole? Quelle parole prononcée par Dieu n'a pas été accomplie en moi? Le péché, c'est l'incrédulité. Qui de vous peut m'accuser d'avoir péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Montrez-le-moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon... Même si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais, car ce sont elles qui rendent témoignage. Autrement dit, le Père est en moi, il rend témoignage de lui-même. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous saisissez? Eh bien, alors, la même vie qui est dans le cep se trouve aussi dans le sarment. Comment ferez-vous pour adhérer à cela? C'est impossible. J'ai vu un arbre, il n'y a pas longtemps, dans le jardin de Frère Charit, en Arizona. Il portait 9 différentes sortes d'agrumes. Qu'est-ce que c'était? C'était un oranger navel. Mais il portait un citron, une mandarine, un tangelo et un pamplemousse. Il en portait de toutes sortes. Je me suis tenu là à regarder cet arbre et j'ai dit, « Frère Charit, vous n'allez pas me dire que cet arbre est un oranger ?» Il a dit, « Certainement. » Et j'ai dit, « Eh bien, comment ça? Comment est-ce possible ?» J'ai dit, « Je vois un pamplemousse ici, une mandarine là, un tangelo ici, un citron là et tous ces autres fruits. Comment est-ce possible ?» Il a dit, « Eh bien, voyez-vous, ils y ont été greffés. » Oh. J'ai dit, « Eh bien, je veux vous demander quelque chose. Bon, vous allez cueillir ce pamplemousse et ce citron, alors l'an prochain, qu'est-ce qui en sortira? Il en sortira certainement une orange. » « Oh non !» Il a dit, « Il en sortira du citron. » Voyez? « Oh !» J'ai dit, « Je vous remercie. » Voyez? On ne peut pas le faire. On ne peut pas s'y rattacher. Mais il a dit, « Chaque fois que cet arbre vieillit d'un an et que de nouvelles branches en sortent, elles produisent des oranges, quand le cep lui-même produit des branches. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'être des membres qui se sont rattachés à lui. Et nous y vivons sous le nom du christianisme. Parce que nous sommes, et c'est une façon toute simple de l'exprimer, nous sommes ses agrumes, l'Église chrétienne. Mais quand le cep lui-même produira un autre cep, celui-ci sera comme le premier cep qu'il avait produit. Si, à la suite du premier cep qu'il avait produit, un livre des actes a été écrit, alors, si jamais il en produit un autre livre des actes s'écrira à la suite de celui-là. C'est exact. Donc, vous ne faites qu'adhérer à des clubs. Mais quand vous êtes né du cep, vous avez un fruit. C'est exact. Vous avez un fruit. Mais qu'est-ce que vous produisez avec cela? Vous avez l'apparence de la piété tout en reniant ceux qui ont fait la force. Vous niez les signes. Vous niez les prodiges. Vous niez le Saint-Esprit. Vous niez le parler en langue. Vous niez les visions. Vous niez les prophéties. Vous niez la guérison. Et cependant, vous vous donnez un nom. Ce n'est pas surprenant que le Saint-Esprit ait dit une puissance, un groupe de gens pleins de noms blasphématoires. Certainement, ils se donnent le nom de chrétiens, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, car il en est parmi eux qui conduisent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce, toutes sortes d'organisations, L'Église est tellement remplie de ce genre d'association-ci et de ce genre d'association-là. Qu'en est-il de l'association de Jésus-Christ? Voyez, nous avons toutes ces autres choses et nous avons surchargé l'Église. Alors, voilà, on ne peut jamais adhérer à une Église. On adhère à un club. On est membre d'un club, d'un groupe de gens, exactement comme dans un club. Nous croyons ceci. Nous avons nos ordres établis. Nous avons nos secrets, et ainsi de suite. Vous faites la même chose. Seulement, vous adhérez à une soi-disant église. Mais vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous avez adhéré à un club de membres, mais pas à une église. Car c'est par une naissance qu'on entre dans cette église et dans le sept lui-même. Maintenant, un instant. Observez. Je vais terminer. Après un certain temps. Remarquez, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Observez, regardez. Si Dieu a cimenté cette épouse par cet esprit, alors il cimente l'individu par cet esprit. Voyez, c'est alors que vous naissez dans ce royaume-là. Alors, la même vie qui était dans cette église-ci est dans cette église-là, dans celle-là, 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 celle-là. Et la même vie qui était dans l'enveloppe, le cèpe, Jésus, est dans le membre qu'il a produit. Gloire! Alors les mêmes choses que je fais, les œuvres que je fais, vous aussi, vous les ferez. Voilà le vrai membre du corps de Christ. Aucun nom n'est collé sur lui. Les œuvres mêmes de cet individu prouvent d'où il vient. Sa vie témoigne de ce qu'il est. Vous êtes membre de quoi? À quel corps appartenez-vous? Au corps de Christ. Eh bien, où y avez-vous adhéré? Je n'y ai pas adhéré. J'y suis entré par une naissance. Voyez, j'y suis entré par une naissance. Vous n'avez pas à le leur dire. Ils savent ce qui s'est passé. Vous, comment pouvez-vous allumer une lampe et la couvrir d'un boisseau? A-t-il dit. Voyez, non, non. Quand on entre dans le royaume de Dieu par une naissance, alors c'est la vie même qui était dans Jésus. Alors, on s'intéresse aux âmes. Alors, on n'a pas à supplier les gens pour qu'ils viennent à l'autel. On n'a pas besoin de supplier qui que ce soit de venir se joindre à ceux qui sont devant l'autel. Oui, les choses se font automatiquement parce que c'est scellé en vous. Vous êtes une entité de Dieu. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. Eh bien, savez-vous ce que le Saint-Esprit signifie? Ça ne signifie pas « j'ai sauté, j'ai poussé des cris, j'ai eu une sensation étrange ». Toutes ces choses sont en ordre. J'ai sauté, j'ai poussé des cris et j'ai eu une sensation étrange. J'ai parlé en langue. Je crois que le Saint-Esprit parle en langue. Certainement. J'ai interprété. Oui, monsieur, ça aussi, j'y crois. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas de ça que je parle. Il peut y avoir une fuite là, quelque part. Il peut y avoir une fuite ici, dans votre patience. Si quelqu'un vous frappe sur un côté du visage, présentez-vous l'autre côté. Au contraire, vous dites, quelle sale hypocrite! Alors, il y a une fuite quelque part, un jet. Nous ferions mieux de laisser ça de côté. Très bien, mais vous savez ce que je veux dire. Par contre, quand vous êtes scellé dans le corps de Christ, alors vous êtes rempli de l'Esprit et vous êtes un fils de Dieu. Oh, j'aurais souhaité avoir environ 10 minutes de plus pour lire quelque chose ici. Alors, voudriez-vous me supporter encore 10 minutes? Je veux lire quelque chose, juste un petit peu. Franchement, là, les haricots ne vont pas brûler. Je vous le garantis, voyez, si nous lisons ceci pendant quelques instants, c'est tellement bon que je ne peux pas laisser ça de côté. Il y a une ou deux choses qui me viennent à l'esprit et dont je voudrais parler. Prenons Jean, chapitre 3, qui parle de la vie éternelle. Voyons un peu ce qui est dit là, quant à ce problème qui s'était posé au sujet de la vie éternelle, la vie de Dieu. Eh bien, maintenant, regardez bien ici. Mais il y eut un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui donc vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que... si Dieu n'est avec lui. » Donc eux, les tribunaux du Sanhédrin, ils reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils le savaient. Voici que leur chef était là, à lui dire, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que la vie même de Dieu coule en toi. » Voyez ? Nous savons que ton enseignement n'est pas de toi, c'est de Dieu, parce que Dieu le prouve. Voyez ? La vie de Dieu coule en toi. Maintenant, regardez bien. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Oh là là, si tu n'adhères pas à mon Église, oh, voyez-vous comme il s'en éloigne? Voyez, voyez, Jésus, alors, Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Voyez, ça va et ça vient. Voyez, ça va et revient. Voyez, le vent souffle où il veut. Tu ne peux pas en entendre, peux en entendre le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? » Regardez-moi ça, frère, un docteur en théologie, un docteur en philosophie, un docteur en droit, voyez, et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous savons ces choses, nous les avons vues, nous savons cela et vous ne recevez même pas notre témoignage. Adhérents d'Église, voyez, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Maintenant, écoutez ceci, regardez bien. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Allez donc comprendre ça. Vous savez, une fois il a dit, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils ont dit, « Le Fils de David. » Il a dit, « Alors pourquoi David, en esprit, lui a-t-il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » Comment pouvait-il être son Seigneur et son Fils? Personne ne lui a plus demandé quoi que ce soit. Dans Apocalypse, il a dit, « Je suis la racine et la postérité de David. » Voyez, je suis le cep et le sarment. Je suis le commencement. J'existais avant le commencement. J'étais le commencement. Et j'étais aussi sa postérité. Alors, il a dit ici, personne n'est descendu du ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Une fois, une dame m'a posé une question. Je lui ai dit, répondez-moi à ceci. J'ai dit, qui Jésus priait-il dans le jardin de Gethsémané? J'ai dit, de qui parlait-il quand il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Qui? Et le voici sur le toit d'une maison en train de parler à Nicodème. Et il dit, « Je suis dans le ciel. » N'est-ce pas vrai? Laissons ça pour ce soir. Qu'en dites-vous? Il se fait trop tard. Oh là là, je vous laisse méditer un peu là-dessus cet après-midi. Comment entre-t-on dans l'Église? On y naît. Par quoi? Le souffle de Dieu. Souffle sur moi. Souffle sur moi, Esprit du Dieu vivant. Souffle sur moi. C'est ma prière. Que le Saint-Esprit souffle. Oh là là, car le souffle de Dieu, qu'est-ce que c'est? Scellé dans le royaume de Dieu, sachant qu'au début, quand j'ai fait ma confession, j'ai cru en Jésus-Christ. Oui, alors, à ma foi, je joins la vertu divine. Et à ma vertu, je joins la connaissance de la parole. À ma connaissance, je joins la tempérance, la maîtrise de soi. J'aime ce chant. Mon pays, c'est toi que je chante. Couronne mon âme de la maîtrise de soi, d'un océan étincelant à l'autre. Voyez, la patience, oh là là, les tests, ne vous en faites pas, Satan les comptera pour vous. Là, je suis en train de monter plus haut sur l'échelle. Voyez, j'ai joint la vertu, la connaissance, la tempérance. Maintenant, je dois joindre la patience. Jusque-là, je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Alors, après avoir joint la patience, je joins la piété. Savez-vous ce que c'est? C'est d'être comme Dieu. Je joins cela. Je ne me conduis pas mal. J'agis comme doit le faire un chrétien intègre. Que ce ne soit pas quelque chose de fabriqué, mais quelque chose qui est en moi, l'amour de Dieu qui bouillonne. Voyez, voyez, ne dites pas, aïe, 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 oh là là, j'aurais pu le faire, mais peut-être que je ferais mieux de m'abstenir. Voyez, non, non, quoi qu'il arrive, c'est toujours là. C'est une naissance. Je suis né dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci. Et alors, l'amour de Dieu, Christ, descend et scelle tout cela en moi pour le service. Voyez? Alors, que fait-il quand il me donne le Saint-Esprit? Il vous retire quelque part et il fait une marque sur vous. Voyez? Et là, Vous êtes une personne différente. Vous n'êtes plus de ce monde. Voyez, vous portez un vêtement différent. Vous êtes habillé différemment. Il ne s'agit pas de ce vêtement extérieur. Non, non. Vous n'avez pas à être bizarre et étrange. Le col tourné vers l'arrière. Une apparence cérémonieuse. Non, non. Vous ne faites pas ça. Vous vous habillez physiquement comme ceci. C'est le vêtement spirituel qui compte. Vous avez été revêtu de l'habit de noces. Qu'est-ce que vous êtes? Comme Jésus. Regardez, quelque chose l'a couvert. Et il a été transfiguré là, devant eux. Ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Voilà, il était là. Jésus. Dieu plaçait son propre fils. Voyez? Alors Moïse est apparu. Alors Élie est apparu. Et Pierre a dit, vous savez, il est bon que nous soyons ici. Voyez-vous la manière humaine? Oui. Oh, le surnaturel s'était produit. Il a dit, dressons trois tentes. Dressons-en une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Et avant qu'il ait fini de parler, Dieu a arrêté tout cela en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Toutes ces choses que j'ai exigées de Moïse et que j'ai prescrites dans la loi de Moïse et la justice par les prophètes, il a accompli tout cela. Écoutez-le. Je vais me retirer de la scène maintenant. Alors, écoutez-le. Alors, écoutez-le. Oh là là! Que c'est merveilleux! Donc, après que nous avons rempli ces conditions requises et que nous sommes remplis des vertus de Dieu et des choses de Dieu, alors le Saint-Esprit descend et nous scelle dans le royaume. Ne vous en faites pas, tout le monde saura que vous l'avez reçu. Vous n'aurez pas à dire, « Eh bien, gloire à Dieu, je sais que je l'ai reçu. J'ai parlé en langue, gloire à Dieu, je sais que je l'ai reçu. Une fois, j'ai dansé par l'Esprit. » Vous n'aurez pas à dire un mot là-dessus. Tout le monde saura que vous l'avez. Ne vous en faites pas, oui. Il rendra témoignage de lui-même. Il fera que cela se sache parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin, d'avoir ce moment de communion. Écoutez, notre église est petite, et donc nous n'avons pas suffisamment de place pour les gens qui viennent ici. Nous ne sommes pas une organisation. Nous croyons, et nous avons la communion fraternelle avec chaque organisation. Vous venez ici simplement parce que vous le voulez. Et vous, nous vous aimons. Et nous voulons que chaque organisation, chaque personne, je crois que dans chacune de ces organisations, il y a des chrétiens. Ce sont des frères et des sœurs en Christ. Ainsi donc, nous n'avons pas d'attache, pas à adhérer à quoi que ce soit. Rien d'autre à faire que d'être chrétien. Comme E. Howard Cadell avait l'habitude de dire, nous n'avons aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible, aucun autre credo que Christ. C'est vrai. Venez nous rendre visite. Ça nous fera plaisir. Nous croyons le plein évangile, toute la parole, d'un bout à l'autre. Nous la croyons telle qu'elle. Nous n'y ajoutons rien, nous n'en retranchons rien. Nous n'y ajoutons aucune camelote d'organisation. Nous la laissons telle qu'elle. C'est tout. Et nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Venez vous joindre à nous quand vous le pouvez. Nous prions pour les malades. Nous croyons tout ce que la Bible dit de faire. Nous oublions nos faiblesses, les laissons en arrière, et nous courons vers le but de la vocation céleste. Bon, encore une chose, me permettrez-vous de le dire? Avant-hier matin, là-bas sur le tableau, vous remarquerez qu'il y a une vision. J'ai eu une vision. C'était vers 5 heures, que ma femme, là derrière, le sait, ou 6 heures. Je m'étais réveillé. Nous nous étions levés pour préparer les enfants pour l'école. Ces choses m'arrivent de temps en temps. Et vous ici, vous le savez tous, qu'elles n'échouent jamais. Elles sont absolument parfaites, voyez. Elles n'échouent jamais. Et je pensais que j'étais la personne la plus heureuse que j'ai jamais vue. J'étais debout, sous le soleil, S-O-L-E-I-L, et je prêchais l'Évangile à une assemblée immense, très nombreuse. Je voulais juste voir si c'était enregistré. C'était une assemblée immense, très nombreuse, et les gens étaient assis dans une forêt. Des rayons de soleil brillaient sur eux, ici et là. Ils recevaient cela, ils recevaient la parole. Et comme d'habitude, je prends toujours trop de temps, je m'attarde trop, je prêche trop longtemps. Et j'avais prêché tellement longtemps que l'assemblée a commencé à avoir faim de la nourriture physique. Et quelques-uns d'entre eux étaient fatigués. Alors, ils se sont levés, sont sortis pour chercher à manger. Ils ont commencé à sortir. J'ai dit, « Ne sortez pas, ne sortez pas !» J'avais deux points culminants que je voulais atteindre dans ma prédication. Et le Seigneur m'avait donné ces choses. Et tout prédicateur le sait. Quand vous êtes vraiment convaincu que c'est Dieu qui vous les a donnés, vous brûlez du désir de le dire aux gens. Et je prêchais tout simplement, Charlie, avec autant de force que je le pouvais. J'insistais beaucoup, vous savez, je disais, toutes ces choses glorieuses, ces choses que Dieu est en train de faire. Regardez cela, il discerne les pensées du cœur. Qu'est-ce que c'est? La parole. et je continuais comme cela. Et oh, comme j'aimerais pouvoir me rappeler ce que je disais et quel était mon sujet. Je n'arrive pas à me le rappeler, voyez, mais je prêchais de toutes mes forces et je me voyais en train de le faire. Et donc, pendant que j'étais là, je regardais, je me voyais en train de prêcher cela et je prêchais vraiment à qui voulait m'entendre. Un peu plus tard, en me redressant, vous savez, j'ai pensé, gloire à Dieu. J'ai dit, regardez toutes ces choses merveilleuses, ceci, cela. Tout à coup, j'ai remarqué que les gens commençaient à donner l'impression d'avoir faim de la nourriture physique. Et donc, ils en avaient assez de la nourriture spirituelle. Alors, ils ont commencé à s'en aller. Et certains d'entre eux, ils ont commencé à s'en aller. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Et j'ai regardé. Il y avait là quelques jeunes couples qui passaient à côté de moi. J'ai dit, un instant, mon ami, un instant, vous reviendrez quand les ombres du soir tomberont. Voyez, j'ai dit, vous reviendrez. Mais laissez-moi vous présenter ce premier point culminant. D'où viennent toutes ces choses que je vous ai montrées? D'où viennent-elles? J'ai dit, les voici, elles sont dans la parole de Dieu. Elles sont ainsi, dit le Seigneur, sa promesse. En effet, j'ai dit, vous me rendez tous témoignage. Vous êtes témoins de ce que ma commission sait. Tient-on à la parole? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez tous? Ne pouvez-vous pas comprendre la parole? Il faut que vous la compreniez. Et certains d'entre eux ont dit, oh, que j'aimerais manger des petits pains. Et ainsi de suite, comme ça. Eh bien, je me suis dit, eh bien, gloire à Dieu. S'ils veulent manger des petits pains, qu'ils aillent chercher. Alors, je me suis retourné. Je me suis dit, oh, mais sais-tu quoi? Les ombres vont bientôt tomber, ça ne tardera pas. Je dis, alors ce soir, que cette assemblée sera de nouveau rassemblée, je leur présenterai le point culminant et je leur dirai que les choses qu'ils m'ont vu faire se trouvent dans la parole de Dieu, pas dans un livre de mythes ou dans une organisation. Elles se trouvent dans la parole. Voyez, toutes ces choses se trouvent dans la parole, parce que c'est cela la commission que j'ai reçue. Je me suis dit, tu sais, ils vont, tout le monde sera de retour ce soir. Et voici ce que je vais faire. Je vais récapituler un peu. Vous savez, de la même manière que je l'ai fait pour les âmes de l'Église et tout, je répète ce que j'ai déjà dit. Je vais reprendre le contexte dans la parole et je leur présenterai ensuite ce glorieux et merveilleux point culminant. J'ai dit, quel moment ce sera? Gloire à Dieu! Et je me suis vu en train de devenir vraiment petit. Et j'ai entendu ce « gloire à Dieu ». Je me suis vu en train de disparaître comme cela. Et voici que je me tenais là. Maintenant, voici l'interprétation de cela. Voyez, ce que j'ai fait en premier, ces choses qui ont été faites, elles étaient mystiques aux yeux des gens, de la plupart d'entre eux. Là, je ne parle pas des gens du plein évangile et des saints de Dieu, mais je parle de la plupart des gens. Et il ne faut jamais considérer le monde, le cosmos, comme étant le message de Dieu. Quand vous allez dire, comme Bozé l'a dit, j'ai rêvé, il y a des années de cela, que que Dieu allait m'envoyer à Chicago et que Chicago serait secoué pour la gloire de Dieu. J'ai dit, Joseph, il l'a déjà fait. Eh bien, il a dit, ils n'ont pas été secoués depuis Moody. J'ai dit, ça? Moi, je parle de l'Église. Ceux qui sont là-dehors, c'est de la chair à canon. C'est juste de la poussière de la terre. Ce groupe de gens qui déambulent dans les rues, c'est Jézabel, toute maquillée et tout. J'ai dit, ça, c'est là-dehors. Ces grands clubs et ces choses s'écrouleront et tomberont là, dans les rues. J'ai dit, lui, il parle de l'Église. L'Église qui a vu la révélation de Jésus-Christ se manifester et qui reconnaît cela. Peut-être qu'il n'en sortira pas même une quinzaine de Chicago. Peut-être qu'il n'y en aura pas une dizaine de cette génération qui sortiront de toute la ville de Chicago. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. En ce temps-là, 8 personnes furent sauvées. Ah oui, combien sont sorties de Sodome? Vous voyez ce que je veux dire? Je doute qu'il en sorte une poignée. Voyez? Mais l'Église elle-même a été secouée. Ils ont reconnu cela. Ils connaissent la parole. Ils ont vu la parole se matérialiser et l'ont saisie. Alors, regardez donc cela un instant. Bon, et ce premier message, quand ils l'ont vu, tout le monde s'y est rallié en disant, « Oh, gloire à Dieu! Oh, si je pouvais voir ceci, cela et autre chose !» Ils repartent tout bonnement, de la même manière qu'ils sont entrés. Voyez? Et maintenant, ils se disent, « Eh bien, je ne sais pas. À quoi va-t-on adhérer? Si je ne fréquente pas ceci, voici ce qui va se produire. Là-bas, on va me mettre à la porte. Et ici, je n'aurai rien. » Les frères s'assoient et disent, « Eh bien, que ferais-je si je... » Voyez-vous, là? Ils ne s'arrêtent pas suffisamment longtemps pour reconnaître que c'est la parole que Dieu a promise, qui est en train de se manifester. Voyez, et ils s'en sont allés. Mais ne vous en faites pas, les ombres sont très proches. Voyez, quand je retournerai sur le show de mission, vous vous rappelez, l'autre soir, quand je vous ai parlé du message qu'il m'avait donné, là, quand je posais la pierre angulaire, exactement, il avait dit, fais l'œuvre. Il avait dit, quand tu sortiras de cette vision, lis 2 Timothée 4. Vous savez, cela se trouve là, dans la pierre angulaire, il y a de cela 33 ans. Il avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se détourneront des fables, de la vérité, et se tourneront vers les fables. Si ça ne s'est pas accompli tout à fait, mot pour mot. Mais vous vous rappelez aussi l'autre soir, là je n'avais jamais lu cela jusqu'à la fin, pendant tous les 30 ans et plus que j'ai prêché dans ce tabernacle, je n'avais jamais lu au-delà de ce verset, et je ne sais pas pourquoi. Je m'étais souvent posé la question, jusqu'au jour où j'ai vu le passage où Jésus avait pris le rouleau et s'était mis à lire. Il a lu la moitié de la prophétie, s'est arrêté et a dit, là-bas à Capernaum, il a dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Pourquoi n'en avait-il pas lu le reste? Cela s'applique à sa seconde venue, voyez? Et là, j'avais lu cela sans le savoir. J'ai pris ce passage, et c'était en plein là, sous mes yeux, à Southern Pines, en Caroline du Sud. Ce matin-là, j'étais dehors, et je parlais à Joseph Bosé, appuyé sur le côté d'une voiture. J'ai saisi cela. Paul a dit, tous se sont retournés contre moi. Il n'y a personne qui soit pour moi. Demas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et maintenant, Regardez, et le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Regardez ce que Demas a dû penser. Eh bien, j'ai vu Paul prêcher l'évangile et guérir les malades. Et voici que lui-même, il est là, souffrant, traînant avec lui un médecin, Luc. Partout où il va, il se fait accompagner par un médecin, lui qui prêche la guérison divine. Eh bien, je l'ai vu frapper un homme d'aveuglement. Il a dit, que le Seigneur te réprime, tu seras aveugle pour un temps. Et laisse un forgeron le chasser d'une réunion. Je pense qu'il a perdu la puissance par laquelle il frappe les hommes d'aveuglement. Hélas, il a perdu sa puissance de la guérison divine. Dieu s'est retourné contre lui. Je ne pense pas que Demas soit retourné dans le monde, parce que Demas était de... Vous connaissez son histoire. Il était d'une grande et riche famille. Il voulait suivre le courant. Mais Paul, le pauvre Paul, qu'en était-il? Dieu laisse toujours un ministère en arriver là, puis il le couronne. Il a laissé Jésus en arriver là. Regardez, là, alors qu'il pouvait ressusciter les morts, alors qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il a laissé le soldat romain lui arracher la barbe et lui cracher au visage. Le frapper sur, lui bander le visage avec une étoffe et dire, « Maintenant, tu sais, on me dit que tu es prophète. » Tout se tenait autour de lui et, avec des roseaux, il le frappait sur la tête. Il disait, « Eh bien, dis-nous qui t'a frappé. » Il savait qu'il avait frappé. Ah oui, certainement, il le savait, voyez. Mais son ministère était sur le point d'être couronné. Cela en arrive toujours là, où ça semble vraiment, vraiment faible, pratiquement fini. Alors Dieu couronne cela. Oh Seigneur, fais que cela se produise. Fais que cela se produise, Seigneur. Courbons la tête. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il... Maintenant, adorons-le. Nous avons eu un enseignement difficile. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Levons les mains vers lui maintenant. Maintenant, soyez dans l'esprit, voyez, je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Levons-nous maintenant. Nous allons chanter notre petit cantique que nous avons l'habitude de chanter pour nous séparer. Le premier couplet, nous le chanterons en nous serrant la main. Le deuxième couplet, nous le chanterons à Dieu. Très bien. Ensuite, nous pourrons nous séparer. Maintenant, chantons. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, ciel. Eh bien, souvenez-vous de cela maintenant. Je vais demander à un jeune frère qui est ici, celui que j'ai rencontré dans la pièce il y a quelques instants, un précieux jeune frère, un missionnaire des Assemblées de Dieu qui travaille là, dans le désert, son nom m'échappe. Je vais lui demander de terminer par la prière, juste après que nous aurons chanté le prochain couplet. Revêt-toi du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Et quand les tentations surviennent, murmure son nom en priant. Regardez bien, les démons s'enfuirent. Voyez ? Maintenant, souvenez-vous, revêtez-vous du nom de Jésus comme d'un bouclier puissant. Et quand les tentations surviennent, arrêtez-vous et murmurez son saint nom en priant. Regardez ce qui se produira. Très bien. Tous en cœur maintenant. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, alors, qu'est-ce que vous faites? Murmure son nom en priant. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux. Voyez cette petite fille? Nom si doux, viens ici chérie. Espoir de... Pendant que vous êtes là debout, la dernière fois que j'étais ici, au tabernacle, sa mère ne fait que rire en désignant l'enfant. Cet enfant portait un appareil orthopédique. La voici qui court partout et qui s'amuse très bien aujourd'hui. N'est-ce pas beau? Gloire à Dieu. Maintenant, regardez par ici. Trésor, saute pour montrer à ceux qui sont là-bas que tu peux courir partout. Voyez? Ô précieux nom, souvenez-vous, ce soir, nous avons la communion. Nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du... Maintenant, courbons la tête et souvenez-vous des services de ce soir maintenant. C'est le soir où nous avons la communion. Vous tous qui êtes chrétiens, rappelez-vous que nous vous invitons à venir prendre la communion avec nous. Nous nous attendons à passer des moments glorieux. Notre précieux pasteur ici, frère Neville, est... Combien aime frère Neville? Dites Amen. Écoutez frère, écoutez-moi en tant que vôtre, en tant que l'un des pasteurs du tabernacle. Restez attachés à frère Neville. Restez avec lui. Voyez, il est un serviteur de Christ. Restez avec lui. La Bible dit, assemblons-nous. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher ce jour mauvais. Venez aux réunions. Venez. Réunissons-nous et restons auprès de notre pasteur. Voyez, restez avec